Vous écoutez Plus on est de fous, plus on lit en balado-diffusion.
Plus on est de fous, plus on lit.
Tout est permis.
Aujourd'hui, l'actualité vue par les livres, le pari culturel de Ilana Mori-Youssef. On a vu le Rocky Horror Picture Show commenté par Martin Bilodeau et par Olivier Arbourmas, une redéfinition du Parti démocrate avec Philippe Bernier-Arcan, un entretien avec Denis Ellis Béchard, Que lisent les Belges et au club de lecture Geneviève Guérard, Marc Ouatteux et Odden Rijanovic. Ici Marie-Louise Arsenault, bienvenue à cette édition de Plus on est de fous, plus on lit en version de 120 minutes, une émission qui vous parvient en direct du studio 17 de Radio-Canada à Montréal. Sur ce plateau, aujourd'hui, nous accueillons nos collaborateurs. D'abord, Martin Bilodeau, éditeur chez Mediafilm et critique de cinéma. Bonjour, Martin.
Bonjour, Marie-Louise.
Et Olivier Arbourmas, journaliste à la section des sports de Radio-Canada. Bonjour, Olivier.
Bonjour, Marie-Louise.
Alors, responsable tous les deux cette semaine du segment On a vu, en l'occurrence, vous avez vu pour nous le Rocky Horror Picture Show, film culte, qui est présenté de nouveau à Montréal au cinéma impérial. Il y a des représentations qui ont lieu depuis vendredi soir jusqu'à ce soir, jour de l'Halloween, évidemment, à 20h et 23h. Alors, c'est un film qui est paru, Martin Bilodeau, dans une certaine indifférence en 1975 et qui est devenu, au fur et à mesure des années, un vrai film culte, un événement, Olivier, où les gens se déguisent, où les gens participent à l'histoire du film en chantant, en dansant, en lançant des objets. Pourquoi ça marche encore? Parce que, Olivier, la moyenne d'âge le vendredi soir dans la salle était à peu près plus jeune que vous.
Plus jeune que moi, oui, autour de 25, 26, 27 ans.
Je ne sais pas.
Voilà. Comment on explique la durée du phénomène?
Et c'est, selon moi, le thème central du film, la fluidité de l'identité et de l'orientation sexuelle. C'est un thème qui est encore extrêmement actuel.
Parce qu'il y a, il y a des personnages. Est-ce qu'il y a un personnage de transgenre dans l'histoire?
Oui, c'est le personnage central, Frankenfurter, qui est joué par Tim Curry, qui l'avait joué d'ailleurs à la scène juste avant. Et puis, c'est un personnage qui est un peu inspiré. C'est un peu Ziggy Stardust, Mick Jagger, avant Village People.
On est en 75. Quand même. Mais c'est vrai que c'est plus actuel que jamais. Bon, les gens se déguisent. Vous avez fait une photographie que vous avez placée sur votre compte Facebook. On voit un homme, en soutien-gorge et en petite culotte.
De dos.
De dos. Vous, Olivier, vous avez retiré votre pantalon.
Pardon?
Oui.
Oui, c'est le cas, en effet. J'étais pas déguisé en arrivant là-bas et puis je me suis laissé embarquer par la folie
ou
la frénésie.
Mais oui.
Voilà, exactement.
C'est formidable, vous avez été payé pour vivre cette expérience quand même,
N'est-ce
en plus, pas mal. Hein?
Voilà. Oui.
Merci et bienvenue à tous.
L'actualité vue par les livres.
Il y a 5 ans, jour pour jour, aujourd'hui, le 31 octobre 2011, la population mondiale dépassait déjà le cap des 7 milliards d'êtres humains. Ce sont les Nations unies qui en avaient fait l'annonce à l'époque en saluant symboliquement la naissance d'une petite Philippine, Danik May Camacho, considérée comme le 7 milliardième être humain sur la surface du globe. 5 ans plus tard, donc jour pour jour, nous revenons sur ce sommet démographique en vous proposant une réflexion sur les limites des ressources disponibles, sur la vision des spécialistes quant au sort de notre planète, pour réfléchir aux questions de surpopulation. Nicolas Titley, 2 livres. D'abord, Le poids du nombre, l'obsession du surpeuplement dans l'histoire, de Georges Minois, paru aux éditions Perrin cette année-là, en 2011. L'auteur est historien, il est français. Il est né en 1946. Il a longtemps enseigné jusqu'en 2007 l'histoire au lycée Ernest Renan en France. Puis il a publié de nombreux livres, dont Une histoire de la vieillesse en 1987 et Une histoire des enfers en 1991.
Il s'intéresse aussi beaucoup aux religions et ça va être d'ailleurs perceptible dans cet ouvrage-là. Ouais. Et vous avez dit 2 choses importantes en décrivant Georges Minois. Il enseigne au lycée, donc il a choisi sciemment de ne pas faire carrière dans le milieu universitaire. Ça lui donne, dit-il, beaucoup plus de liberté à titre d'auteur. Il peut aborder toutes sortes de sujets. Et il est également historien, donc il n'est pas démographe. Donc ce n'est pas, à proprement parler, une histoire de la démographie.
Mais c'est une histoire de la perception de la surpopulation.
La perception.
Ça, c'est intéressant.
Parce que ce qu'il nous dit dès le début, c'est que depuis que l'homme et hommes, en fait, on s'inquiète du surpeuplement, de la surpopulation. Mmh. Et la surpopulation, ce n'est pas une chose de nombre absolu. Il n'y a pas un chiffre magique. Ouais. Si on atteint le 10 milliards tout d'un coup, c'est la surpopulation. C'est un ratio, en fait, entre les ressources disponibles et la population qui est existante sur un territoire.
Ouais.
Donc, il remonte jusqu'au paléolithique, en fait. Et on se rend compte que dès l'enfance de l'humanité, on a pratiqué une espèce de forme de contrôle de la population. Mmh. Évidemment, les hommes du paléolithique ne se posaient pas la question. Il n'y a pas eu de grande réflexion là-dessus. Si quelqu'un était trop faible, trop vieux, ben on l'abandonnait ou on le frappait avec une roche, puis c'était fini. Il ne faisait plus partie du groupe.
Comme le font les animaux, par exemple.
Oui, parce que 50 personnes pour un mammouth, c'est une bonne chose. 5000 personnes pour un mammouth, c'est beaucoup moins intéressant. Donc, cette notion, cette idée qu'on peut atteindre un seuil critique de population existe donc dès la préhistoire. Évidemment, ce qui va changer, c'est l'arrivée de la grande révolution de l'agriculture au néolithique. Oui. Donc, 12 000 ans à peu près avant notre ère, là, tout d'un coup, les gens commencent à se placer dans des petites communautés.
Ils vont devenir sédentaires.
Oui, oui. Et là, on va voir vraiment une augmentation. Donc, vers moins 6 000, 7 millions d'êtres humains, moins 3 000, on passe à 14 millions, ensuite moins 2 000, 27 millions, et en l'an 1 de notre ère, 250 millions. Donc,
c'est pas mal de monde. Hein? Là, on est dans la grande période de l'Antiquité. Et déjà, les philosophes de l'époque, comme Platon, par exemple, vont réfléchir à la notion de surpopulation. Ça va les inquiéter, en fait.
Et ça, c'est très intéressant parce que dans la Grèce antique, on réfléchit déjà à cette idée de population optimale. Évidemment, on n'a pas de statistiques à l'appui. Donc, on ne peut pas faire de grandes études. Mais Platon et Aristote vont se mettre à théoriser sur l'idée qu'il y aurait un nombre. Pour que la cité soit florissante, ben, il faut qu'on ait assez de gens, finalement, pour travailler au champ. Ouais. Qu'on a assez de gens pour monter une armée. Mais à partir du moment où on commence à avoir trop de monde, là, il y a un problème pour la pureté de la race, entre autres. Donc, certains disent que Platon est le premier eugéniste. Parce qu'il dit, s'il y a trop de monde dans la cité...
Il craignait la mixité. Hein.
Les étrangers peuvent entrer, on ne s'en rend pas vraiment compte. Tout d'un coup, ils vont se mélanger à nous. Qu'est-ce qui va arriver? Donc, ça, c'est assez intéressant de voir que ça monte à loin.
Ensuite, Platon, Marine Le Pen, même combat.
Ensuite, le christianisme va changer bien les choses quant à notre perception de la population parce que l'un des premiers commandements de Jéhovah, c'est multipliez-vous.
C'est vrai.
On dit, allez-y, cette terre est à vous, multipliez-vous. Et ça, dans l'Ancien Testament, c'est comme ça. Et le moyen de contrôle de la population, Jéhovah est assez doué dans le contrôle de la population, famine, plaie, plaie d'Égypte, et où, à un moment donné, il se tanne vraiment contre l'humanité, le déluge. On garde juste une famille sur un petit bateau en bois et beaucoup d'animaux.
Et on part en neuf. Mais
ça, c'est ce qui arrive, c'est que souvent, en fait, le contrôle naturel de la population, ça se fait comme ça, normalement, par les épidémies, par les grandes famines, et ça arrive, donc,
catastrophes aussi environnementales, tremblements de terre, les inondations.
Et au Moyen-Âge, il va justement y avoir un problème de surpopulation qui, et là, je vous ramène à l'idée que j'ai exposé au début, qui ne tient pas au manque d'espace, mais plutôt au manque de ressources. Tout d'un coup, évidemment, l'agriculture est encore assez primitive. Oui. Monsanto n'est pas là pour produire des OGM en quantité industrielle pour la population. L'Église va changer un petit peu sa position et va s'inspirer plutôt du Nouveau Testament que de l'Ancien. Et dans le Nouveau Testament, on valorise grandement la virginité, entre autres choses, et on dit des choses comme c'est bien de s'abstenir aussi. Il faut se retenir, par exemple, de passer à l'acte.
Mais oui, et pas de relation sexuelle avant le mariage. Non. Donc, ce qui va contrôler, évidemment, naissances.
Oui, et alors...
La prolifération des populations.
Là, à une certaine époque, on disait, mariez-vous dès l'âge de la puberté. Là, on se dit, on repousse un petit peu l'âge du mariage. Et il va y avoir un truc aussi assez utile pour contrôler la population qui va s'appeler les croisades. Il y a beaucoup de monde. Et là, on se dit, on pourrait envoyer ces gens-là aller sauver la Terre sainte. Donc, ça va aider à contrôler la population. Bref, tout ça, c'est intéressant, c'est un survol historique quand même. Et il faut attendre la moitié du livre pour arriver au gros morceau qui est M. Malthus. Alors, qui est Thomas Robert Malthus? C'est le père de la démographie moderne. C'est le premier qui s'est mis à théoriser vraiment sur la population, la surpopulation. Il a vécu de 1769 à 1834 et il est connu pour son fameux essai sur le principe de population qui est paru en 1798. Alors, il est le premier qui arrive avec une espèce d'équation. Lui, il dit, il semble avoir observé quelque chose. Il dit, la population croît de façon exponentielle. Donc, on passe de 1 à 2 à 4 à 8, alors que les ressources, elles, croissent de façon plutôt arithmétique. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, ce qui fait que la population grossit, beaucoup plus rapidement que les ressources et ça va amener un déséquilibre, donc un problème de surpopulation. Évidemment, c'est une théorie qui a été mise à mal assez tôt parce que Malthus n'était pas si intelligent que ça. Il s'est pas rendu compte que les méthodes de production, la technologie allait faire que ben, finalement le problème...
On pourrait compenser.
A été compensé.
Jusqu'à une certaine limite, parce qu'il y a des gens qui vivent dans une grande famine à l'heure actuelle. Quand
absolument,
même.
Mais si vous prenez des chiffres absolus, je vais vous donner, par exemple, en 1960, il y avait 3 milliards d'habitants sur Terre. 2 milliards d'entre eux souffraient de, malnutrition. Oui. 66 % de la population en 1960. En 2000, on est 6 milliards d'habitants et seulement 800 millions souffrent de malnutrition, soit 13 %. Alors, la malnutrition
diminue.
Ça baisse. Ça diminue parce que la technologie augmente. Il y a aussi le problème de Malthus, c'est qu'il a des idées sociales assez nauséabondes. Et lui, il pense qu'il y a une espèce de loi... naturel et que la nature va se charger d'éliminer les pauvres, finalement. Parce que le problème, c'est les pauvres. Ils ont beaucoup de bouches à nourrir, ils font beaucoup d'enfants, ils n'arrivent pas à se contrôler. Donc,
Petit côté Anne Rand.
Absolument, absolument. Oui. Et d'ailleurs, dans j'allais dire Mark Twain, l'auteur de Christmas Carol, j'ai un blanc tout d'un coup.
Oui, lui, là.
Dickens, oui, Charles Dickens.
Merci, Marie-Chantal.
Charles Dickens va faire de Malthus donc la vision du méchant capitaliste. Oui. Le personnage de Scrooge dans Dickens est inspiré de Malthus parce que lui, il se dit, les pauvres, ben laissez-les s'arranger avec eux. Et ce qui est dommage, c'est que les idées de Malthus vont être récupérées historiquement par les eugénistes, éventuellement les nazis, des gens qui veulent faire un contrôle de la population un petit peu plus...
C'est le retour de la pureté de la race, hardcore. Bien sûr.
Malthus est très, très mal vu par les gens de gauche. Il va être critiqué, entre autres, par les marxistes. Et ça, tout ça, c'est vraiment, vraiment intéressant et c'est bien fait. Il y a des milliers de références dans le livre de Minois.
Énorme ouvrage.
Et au final, il finit par laisser tomber son masque, il laisse tomber l'objectivité, il donne sa position à lui.
Georges Minois,
c'est un catastrophiste. Il dit, effectivement, la population continue de grossir et nous allons tous en souffrir. Là, on annonce entre 9 et 12 milliards pour l'horizon 2050.
Oui.
C'est un problème.
Mais ce sera trop.
Et la petite fille dont vous parliez, qui était la 7 milliardième, il conclut son livre en disant, je me demande, est-ce qu'il faut qu'on lui envoie un courrier de bienvenue dans l'humanité ou une lettre d'excuse? Parce qu'elle a 7 chances sur 10 de naître dans un pays pauvre et dans une famille défavorisée. On meurt beaucoup moins aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire qu'on vit si bien
dans des conditions acceptables.
Donc, il pose beaucoup, beaucoup de questions à la fin de l'ouvrage. Est-ce qu'on devrait faire plus d'enfants ou est-ce qu'on devrait se calmer le pompon un petit peu?
Le poids du nombre, l'obsession du surpeuplement dans l'histoire de Georges Minois est paru aux éditions Perrin. Parlons maintenant en deuxième lieu de l'ouvrage « L'apocalypse démographique n'aura pas lieu ». Autre regard, donc celui de Fred Pearce, est paru la même année en 2011 aux éditions de La Martinière. Fred Pearce est un journaliste spécialisé dans l'écologie. Il contribue notamment au New Scientist et au Guardian.
Donc ce n'est pas un idiot, mais il a un point de vue qui est
opposé à celui de Georges Minois.
Lui aussi assez, assez objectif, il fait un survol, mais lui il commence directement avec Malthus et c'est pour mieux le démoniser. dès qu'il commence, il fait de façon un peu agressive, il parle de son bec de lièvre, et il parle de toutes sortes de choses. Et là, on a dit, ce gars-là, c'est vraiment pas bon, et c'est la source de tous les problèmes. Et par la suite, il va faire le tour du monde. Et pour nous montrer que les positions catastrophistes historique, parce qu'on a plusieurs fois prédit que la Terre arrivait à bout de ressources. Oui. C'est pas d'hier, là. Ça fait 100 ans qu'on dit ça.
Il y a une vraie
ça.
Passion pour l'apocalypse aussi au cinéma, notamment Martin Bilodeau. Il y a le film de Ron Howard là, qui vient de paraître avec Tom Hanks, inspiré d'un roman de Dan Brown où un homme invente un virus.
Un virus de la peste pour éradiquer la moitié de la population mondiale.
On voit ça dans Watchmen également aussi. On voit ça, le fameux film aussi Soleil Vert avec Charlton Heston.
Celui qu'on a vu trop jeune.
Soylent Green is
Nicolas.
People, où on mène les gens au cannibalisme. Oui. Finalement, c'est la manière de contrôler la population. Donc, ça a été très, très présent donc, dans la fiction. Et Fred Pearce, lui, n'est pas aussi alarmiste que Georges Minois. Bien au contraire. Oui. En fait, lui, ce qu'il nous montre que l'être humain a une capacité d'adaptation incroyable. Il y a un problème démographique en ce moment qui semble être un problème, c'est que les gens vivent de plus en plus vieux.
Absolument.
Et comme les gens vivent plus vieux, ont une espérance de vie vraiment plus grande, les gens, les femmes font moins d'enfants. Mm-hmm. Il y a un point sur lequel les deux auteurs s'entendent. Le féminisme, c'est l'avenir du contrôle de la population.
Formidable.
Parce que plus les femmes ont le pouvoir sur leur corps et leur reproduction, moins elles vont faire d'enfants et plus elles sont engagées dans le milieu du travail. Donc les deux s'entendent là-dessus. Mais lui finit par dire, finalement, les positions catastrophistes, c'est l'œuvre de parano, de gens qui s'appuient encore sur des vieilles théories, celles de Malthus et tout ça, alors que la technologie va faire que nous allons être meilleurs, nous allons être capables de gérer ça. Et lui annonce même une décroissance. Il dit on va atteindre un plateau vers 2050 et on va commencer à baisser.
Bien, on l'a vu en Asie, au Japon, en Chine notamment, évidemment avec le contrôle des naissances. Là.
Mais il y a un truc qu'on n'a pas abordé dans tout ça, évidemment, c'est la migration des populations. Ça, il en parle beaucoup. Fred Pierce, il y a des pays qui ont des taux de croissance négatifs. C'est le cas de la plupart des pays occidentaux. Sans l'afflux d'immigrants, on baisserait de population au Canada, aux États-Unis. Donc, il y a quand même tous ces mouvements-là. Oui. Bref, un sujet énorme, deux points de vue complètement différents, deux trucs à lire. Il y a eu d'autres livres qui ont été publiés depuis. Il y en a des visions complètement marxistes, éco-terroristes, des gens qui disent que finalement, ceux qui prétendent qu'on va être surpeuplés, c'est juste les méchants capitalistes qui veulent nous garder dans l'ignorance, dans l'esclavage. Entre autres, un qui est paru chez Éco-Société, que je trouve complètement paranoïaque, une planète trop peuplée, le mythe populationniste, l'immigration et la crise écologique. Il y a beaucoup, beaucoup de livres sur le sujet.
Oui.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on était 7 milliards il y a 5 ans. Nous sommes 7,5 milliards et on se dirige allègrement vers le 9, donc à l'horizon de 2050.
Voilà, on va placer les références des ouvrages dont il a été question avec vous, Nicolas Titley, au cours de ce segment sur notre site web. Merci beaucoup.
Sur Ici Radio-Canada, première,
plus on est fou, plus on lit,
avec Marie-Louise Arsenault. Consultez notre site Internet à l'adresse suivante ici.radio-canada.ca/ plus on lit
et écrivez-nous à plusonlit@radio-canada.ca.
On s'en va à Paris.
Transportons-nous maintenant à Paris, où se tient présentement, pour ceux que ça intéresse, le tournoi de tennis de Bercy. C'est le dernier Master 1000 de la saison. À 18h27, heure locale, c'était pour vous, ça, Olivier Arbourmas, dans un studio de Radio France. Retrouvons notre collaboratrice, la journaliste Iliana Mori-Youssef. Bonsoir, Iliana.
Bonsoir Marie-Louise, bonsoir à tous.
Alors, Iliana, parlons d'abord des événements entourant la réouverture du Bataclan, salle de spectacle marquée, rappelons-le, il y aura un an, dans quelques jours, le 13 novembre, par des attentats qui ont fait 90 victimes lors d'un concert du groupe américain Eagles of Death Metal. On a dévoilé jeudi dernier la nouvelle devanture de la salle, alors c'est comment? Cette nouvelle devanture.
Alors, c'est comment? Eh bien, elle ressemble assez à l'ancienne, si ce n'est que maintenant, Bataclan est inscrit en grosses lettres rouges inclinées.
Oui.
L'intérieur, on ne l'a pas encore vu. Il est encore en travaux.
Oui, c'est encore en construction.
Mais il va falloir se dépêcher parce que la réouverture de la salle est prévue pour le 16 novembre, donc dans pas très très longtemps, une quinzaine de jours à peine.
Avec un concert de Pete Doherty, donc britannique, qui va inaugurer la salle. Il y a Marianne Faithfull aussi, chanteuse absolument mythique, britannique d'origine également, qui va y chanter le 25 novembre. Il y a des artistes donc qui se sont évidemment précipités pour y chanter, mais il y a aussi des chanteurs comme Francis Cabrel qui refusent absolument d'y donner des spectacles. Quelle est l'atmosphère autour de la réouverture? Est-ce qu'il y a une polémique? Est-ce qu'il y a des conversations à savoir, évidemment, comment on peut qualifier le geste de chanter dans une salle qui a été marquée par un événement aussi sordide?
Il n'y a pas vraiment de polémique, mais c'est sûr que les avis sont partagés puisque chacun réagit en fonction de sa sensibilité. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'a dit le chanteur Vincent Delerme qui sort un album ces jours-ci à l'occasion de ses 40 ans. Il a dénoncé à la radio une surenchère obscène des artistes qui disent « moi j'y vais, mais à condition de faire l'ouverture », comme si le fait de faire l'ouverture allait leur procurer un surcroît de notoriété, etc. Ce qui est assez, en effet, fait étrange, pour ne pas dire plus. Mais c'est dommage, Vincent Delerme ne signe pas de nom, donc je n'ai pas de nom à vous proposer.
Mais on peut imaginer qu'effectivement, cette soirée du 16 novembre est courue par les managers, par les attachés de presse. Bien sûr qu'on va beaucoup parler de ce concert de Pete Doherty. C'est lui qui va inaugurer la nouvelle salle. Évidemment, on peut supposer que dans le marché de la musique, ça créait ou ça engendrait une certaine surenchère. Dans la foulée donc du premier anniversaire de cet attentat du 13 novembre, paraît aussi la bande dessinée Mon Bataclan vivre encore, écrit par Fred de Wild, comme on dit chez vous. Donc, c'est un survivant des attentats qui raconte sa soirée horrible aux côtés d'une jeune femme, Elisa, qui l'a soutenue parce qu'elle a été blessée. Vous avez lu cet ouvrage pour nous. Qu'en avez-vous pensé, Ilana?
Alors, c'est une chronique, donc on a le droit d'être subjectif, je suppose.
Bien sûr.
Alors, je vais commencer par dire ce qu'il y a dans l'ouvrage. Dans une première partie, en fait, c'est une bande dessinée, en effet, où il explique le début du concert, qu'il est très content, qu'il est venu avec des amis, etc. Et puis, tout à coup, les coups de feu, il se jette par terre, il se retrouve à côté de cette jeune femme, Elisa, qui est blessée, et avec laquelle, pendant 2 heures, ils vont essayer de se créer une bulle d'humanité à tous les deux en se parlant, en se racontant, y compris des blagues. Et les agresseurs, les terroristes sont dessinés sous forme de squelettes surarmés avec des têtes de mort. Alors, maintenant, et dans une deuxième partie, il y a un témoignage écrit, parlé, de 22 pages environ, où il raconte l'après, comment il s'est réveillé le lendemain, comment il s'est senti la semaine suivante, comment il a retrouvé cette fameuse Elisa qui était hospitalisée. Et alors, moi, plusieurs choses m'ont gêné dans ce livre. D'abord, je trouve que le dessin est assez médiocre. Ce qu'il y a de mieux dans le livre, en fait, c'est la couverture qui représente en gros plan noir, gris, blanc, deux mains aux doigts entrelacés. Et sinon, bon, alors le dessin n'est pas terrible. Et alors, les textes sont d'une pauvreté, pardon, mais consternante. Je dois dire que, la forme en soi est gênante parce que, comme si le dessin en soi n'était pas assez puissant, il y a d'un côté la BD, de l'autre le témoignage écrit, comme si son dessin n'était pas assez fort pour porter toute l'histoire. Alors, à sa décharge, il faut dire que ça n'est pas un dessinateur professionnel.
C'est
vraiment
un graphiste.
C'est un graphiste qui est spécialisé dans l'illustration médicale, qui s'est lancé là-dedans en se disant que ça allait l'aider. Alors, très certainement, cet ouvrage a pour lui une vertu thérapeutique. Mais le lecteur, lui, ça ne l'aide pas à penser l'événement. Et la deuxième chose que je trouvais extrêmement gênante, c'est cette espèce de comment dire, d'enfilage de banalité, la guerre c'est mal, Gandhi c'est bien, il y a un refus de nommer les choses qui est gênant et en fait il y a pas mal de publications en ce moment à l'occasion de ce premier anniversaire. J'ai reçu ce matin un livre que j'ai pas encore eu le temps d'ouvrir qui s'appelle Nos 14 novembre d'Aurélie Sylvestre. Son mari a été tué dans l'attentat. Elle était à ce moment-là enceinte, elle avait déjà un enfant de 3 ans, donc elle explique qu'elle a fait le choix de la vie.
Et c'est la fille d'Anne Sylvestre. C'est le fils d'Anne Sylvestre qui est mort.
Oui, qui est mort. Oui.
Alors, je l'ignorais. Oui. Je l'ignorais totalement. Alors, tous ces survivants... Alors, de la même façon qu'on avait eu tout de suite après « Vous n'aurez pas ma haine », les survivants qui écrivent éprouvent le besoin de préciser tout de suite qu'ils n'ont, ils sont pas, il n'y a pas de haine chez eux, il n'y a pas de colère. Comme si c'était mal et comme si c'était honteux, après avoir subi ce qu'ils ont subi, d'éprouver de la colère ou de la haine ou du désarroi.
Mais ça participe, Ilana, d'une culture ambiante où effectivement la colère, le ressentiment ne sont pas permis dans nos sociétés. Il faut rapidement passer à autre chose.
Et Marie-Louise, dans ce cas-là, moi j'ai un conseil, si je peux me permettre, évidemment, à ma place de privilégié qui n'a pas été touché par ces attentats, il faut relire L'imprescriptible de Jean Kelevitch. On a le droit de ne pas pardonner quand même.
Absolument.
Ça,
donc,
c'est un point de vue tout à fait subjectif, évidemment.
Mon Bataclan de Fred de Wild est paru chez Le Mieux Éditeur. Ilana, parlons maintenant de la polémique entourant l'obtention du prix Fémina dans la catégorie essai, prix qui a été remis le 25 octobre, il y a quelques jours, à Paris. Alors, il a été remis ce prix à Ghislaine Dunant pour sa biographie de Charlotte Delbault. Alors, disons d'abord qui était Charlotte Delbault et ensuite, qu'est-ce qu'on reproche à Ghislaine Dunant?
Alors, Charlotte Delbault, c'était une femme absolument remarquable. C'était une résistante. Elle a été déportée pour fait de résistance. Elle a survécu. Elle a été, avant d'être déportée, la secrétaire particulière de Louis Jouvet. Et elle était très proche du Parti communiste. Oui. Son mari était un militant. Elle écrivait pour les Lettres françaises. Elle avait des idées politiques bien affirmées. Et à un moment, elle a refusé de suivre Jouvet dans sa tournée en Amérique latine. Elle est rentrée en France et quelques temps après, elle a été déportée. De ça, de cette expérience, sont sortis 3 ou 4 livres absolument remarquables, dont le premier s'appelle « Aucun de nous ne reviendra ». Et il faut lire Charlotte Delbault parce que ça n'est pas seulement un témoignage de plus sur les camps, c'est un écrivain.
Ouais.
Voilà.
On la compare à Primo Levi, en fait, beaucoup.
Ah oui, elle vaut très largement. Oui, elle est largement à son niveau. D'ailleurs, c'est une énigme de savoir pourquoi son œuvre n'est pas aussi connue que celle de Primo Levi. Peut-être parce que c'est une femme, je ne sais pas. En tout cas, vraiment, c'est une œuvre absolument remarquable aux éditions de Minuit, pour ceux qui seraient intéressés. Oui. Alors, Guylaine Dunant, elle est passionnée par Charlotte Delbault. Elle a publié une épaisse biographie en cette rentrée. Elle reçoit le prix Femina Essai et quelques heures après, naît une polémique sur les réseaux sociaux qui a été lancée par l'écrivaine Tatiana de Ronay, qui dénonce la malhonnêteté, le manque de professionnalisme de Guylaine Dunant. Pourquoi ? Eh bien parce que Guylaine Dunant, ça j'ai pu le vérifier, ne donne pas de bibliographie à la fin de son ouvrage. Elle ne dit pas, elle cite les archives qu'elle a eu l'occasion de consulter, mais elle ne cite pas les ouvrages qui sont parus sur le même sujet. Or, en règle générale, quand on écrit un ouvrage aussi volumineux, aussi important, on prend soin,
600 pages. Voilà, là.
On prend soin quand même de préciser qui sont ceux qui vous ont précédé, on leur rend hommage, ou on explique pourquoi on va se démarquer d'eux, mais en tout cas, on ne les ignore pas. Ouais. Or, il y a 3 ans, est parue une biographie sur le même sujet, sur Charlotte Delbault, aux éditions Fayard, qui n'est absolument pas mentionnée. Alors, Guylaine Dunant a fait, au bout de deux, trois jours de polémique, elle a fait paraître un communiqué où elle disait qu'elle ne comprenait pas cette polémique et que d'ailleurs son livre n'était pas une biographie, ce qui est quand même assez curieux parce que c'est quand même comme biographie qu'il a été couronné. Et je note tout simplement qu'elle n'a pas reçu un soutien très affirmé de son éditeur qui l'a un peu laissé se dépatouiller dans cette affaire. En tout cas, il faut quand même le préciser, il n'est pas question de plagiat, c'est tout à fait autre chose.
Oui, c'est une question de manque de citation des œuvres précédentes. Alors, l'éditeur en question, qui l'a laissé se dépatouiller, à votre avis, c'est Grasset, hein, cet ouvrage, donc volumineux. Alors, ça s'écrit GH, hein, c'est pour ça que je pensais que ça se disait Ghislaine, mais on dit Guylaine.
Je vous rassure, j'avais fait la même bêtise que vous à l'antenne. Pas de problème.
Alors, Charlotte Delbault, La vie retrouvée, donc, c'est publié chez Grasset. Parlons en terminant, Ilana, de l'ouvrage qui a remporté le prix Femina dans la catégorie fiction, un ouvrage que vous avez lu et qui sera commencé au club de lecture de cette émission plus tard en novembre par l'historien Daniel Turcotte. Alors, c'est un roman qui s'intitule « Garçon » et qui est campé dans la France. « Le garçon » dans la France de la Première Guerre mondiale.
Oui, alors c'est l'histoire d'un garçon qui n'a pas de nom. Au tout début du roman, on le voit porter sur son dos sa mère qui est agonisante et qui l'emmène, comme ça sur son dos jusqu'au bord de la mer où elle finit d'agoniser. Et ensuite, ce garçon qui, au moment où nous faisons sa connaissance, il a 14 ou 16 ans, je ne me souviens plus exactement, eh bien, il va essayer de cheminer dans la vie lui-même. Il va essayer de découvrir le monde qu'il ne connaît pas. Il est quasiment un enfant sauvage. En fait. Et alors, pour les auditeurs qui seraient un peu gênés, qui ne connaissent pas Marcus Malte, je les rassure. D'abord, moi, je ne le connaissais pas avant ce livre. Et la présidente du jury, Mona Ozouf, a dit qu'elle ne le connaissait pas non plus. Elle pensait que c'était son premier roman, alors que pas du tout. Il a déjà été récompensé pour d'autres ouvrages, notamment dans la catégorie policier. Mais ce qu'elle a dit, Ozouf, est très, très intéressant. Elle a dit « C'est un aérolithe tombé dans nos plates-bandes littéraires. » ça a été la surprise du fait Femina, qui récompense en outre une toute petite maison d'édition. Alors, pour revenir à le garçon finit par connaître la vie, l'amour, etc. Et puis, finalement, lui qui essayait d'acquérir en fait le béaba de la civilisation, etc., c'est par les hommes en fait qu'il retourne à la sauvagerie puisqu'il est embarqué dans la Première Guerre mondiale. Et Ozouf a dit quelque chose de très juste. Elle a dit c'est une allégorie de l'ensauvagement de l'homme par la guerre. Et Marcus Malte, que j'ai eu l'occasion de rencontrer lors de la remise du prix, a dit en fait c'est l'histoire de quelqu'un qui essaye de devenir un homme, qui y réussit pour finalement se demander mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de devenir un homme?
Question existentielle fondamentale. Alors, Le garçon de Marcus Malte est publié chez Zulma. Il vient de remporter avec raison, à votre avis, le féminin dans la catégorie fiction. Ilana Mori-Youssef, nous allons évidemment placer les références des sujets que nous avons abordés avec vous ce soir depuis Paris sur notre site web. Excellente fin de soirée à vous et à très bientôt.
À vous aussi, au revoir.
Sur ICI Radio-Canada Première,
plus on est de fous, plus on lit,
avec Marie-Louise Arsenault.
Plus on est de fous, plus on lit, le 11 février 2014, l'écrivain Tahar Ben Jelloun.
Pour moi, la vieillesse, c'est pas le fait d'avoir des ans de plus, c'est le fait de ne plus s'adapter aux nouvelles conditions physiques et mentales du corps. Et quand on commence à ne pas accepter l'évolution et la détérioration physique et mentale, alors on souffre. Alors, moi, apprendre à vieillir, c'est apprendre, bien sûr, à mourir, mais en même temps, c'est apprendre la vie et l'accepter telle qu'elle est.
Plus on est de fou, plus on lit.
On a vu.
Le 14 août 1975, le film Rocky Horror Picture Show, comédie musicale adaptée de la pièce créée à Londres en 1973, réalisée par Jim Sharman, prend l'affiche d'abord en Angleterre, puis à New York, quelques jours après, dans une certaine indifférence, jusqu'à ce qu'un publicitaire propose au distributeur Fox, à l'époque, de le présenter à minuit au Waverly Theatre à New York, engendrant rapidement un culte autour de cette histoire qui se perpétue encore aujourd'hui, ce culte avec un public déguisé, objet lancé sur l'écran, jet d'eau, chorégraphie. Voici un extrait du film. Alors, c'est un extrait du film de Rocky Horror Picture Show. C'est l'une des chansons les plus célèbres de cette comédie musicale.
On a dansé, Olivier et moi.
On a dansé, on s'est laissé.
Alors, le film est présenté à Montréal depuis vendredi soir. Jusqu'à ce soir, il y a deux représentations, 20h et 23h, très courues. Vous faisiez partie, Martin Bilodeau, rédacteur en chef chez Mediafilm et critique de cinéma, né le 17 février 1967 à Montréal du public de vendredi soir, avec vous au balcon. Olivier Arbourmas, né le 30 juin 1985 à Montréal. Vous êtes de deux générations différentes. Olivier, vous ne connaissiez même pas l'existence du film avant qu'on vous demande d'aller le voir.
En effet, c'est un beau mandat.
Jamais entendu parler de ce film.
Non, pas du tout.
Oui.
Jamais entendu parler.
Non. Excusez-moi, je vivais en dessous d'une roche, visiblement, parce que y a beaucoup de gens. Qui était présent là et qui visiblement avait entendu parler, avait reçu le mémo. Là.
Ben oui, donc des jeunes d'à peu près 24-25 ans en moyenne dans cette salle, Martin Bilodeau.
Jusqu'à la mi-trentaine, je dirais. Donc effectivement, un petit peu vieux.
Étonné aussi, j'imagine, parce que c'est un film qui a pris cette ampleur phénoménale à partir, de la moitié des années 70, qui a marqué des générations que l'on représente plus facilement. Nicolas Titley, vous l'avez vu.
Absolument. En salle quand même. À l'époque, il était classé 18 ans.
Ah oui, non, mais
il fallait avoir 18 ans pour aller voir ça.
En salle plus tard, mais dans les années 90, je veux dire, Montréal est présenté depuis sa création, en fait, je pense.
Oui, à chaque année, comme événement, là, à l'intérieur, c'est formidable.
C'est le film qui a duré le plus longtemps en salle de toute l'histoire.
De toute l'histoire du cinéma. Et ce qui est formidable, ce que vous avez pu constater vendredi soir, c'est que c'est un phénomène qui se transmet de génération en génération. Là, comment on explique ça, que des gens de 25 ans aillent voir ce film, Martin Bilodeau?
Ben d'abord, moi, je pense que c'est un culte anglo-saxon. Il faut quand même le reconnaître. Et même la clientèle qui était à la représentation de 20h vendredi soir, c'était, je dirais, à majorité anglophone. Ouais. Donc, et le culte du camp, de tout ce qui est outrecuidant, extraverti, des trucs comme ça, comme c'est un film qui rend hommage aux vieilles séries B des années 50, en 1975, quand même l'année de sa création. Il y a quelque chose là-dedans, ce genre de culte-là est très bien entretenu, même dans les gender studies, même dans les universités. C'est très, très, très présent
c'est
chez les anglo-saxons,
des préoccupations,
beaucoup moins chez les francophones.
Exact. Actuel, vous le soulignez, en ouverture d'émission, Olivière Bourmas. Bon, l'élément transsexuel. Racontons d'abord l'histoire, puisqu'il faut la raconter, s'il y en a une. C'est l'histoire d'un jeune couple.
Oui, c'est un jeune couple.
Janet et
Olivier,
Brad.
Olivier, vous allez le raconter.
Ben, il y en a une histoire. Elle est un peu mince. À la fois mince, c'est très, très complexe. Là, c'est pas pour l'histoire qu'on va voir le Rocky Horror Picture Show. C'est l'histoire d'un jeune couple très normatif, heureux, nouvellement fiancé, qui tombe en panne sur la route et qui doit demander de l'aide, se retrouve dans un vieux manoir, et là, entre dans une autre dimension, un autre monde, avec des personnages extrêmement excentriques, à la sexualité fluide, et...
qu'est-ce que ça veut dire, ça?
C'est des gens qui couchent autant avec des hommes que des femmes, oui. Qui ont une identité sexuelle qui n'est pas clairement définie, qui ne sont pas... nécessairement un homme ou une femme. Par exemple, le personnage principal, oui. le Dr. Frank.
Voilà, Dr. Frankenfurter.
Bon, ça, c'est une référence au roman de Mary Shelley.
Tout à fait. Frankenstein. D'ailleurs, oui. Ça a été tourné, plusieurs des scènes du film ont été tournées dans un manoir qui était employé par les studios Hammer en Grande-Bretagne pour tourner des films de Dracula, des films de Frankenstein, oui. Des films de momie, etc.
C'est un film d'horreur, d'une certaine façon.
Oui,
c'est un spoof des
films d'horreur. Oui. C'est une satire, une parodie de vieux film d'horreur.
Oui, c'est très postmoderne, en fait.
Oui, oui, voilà. Et ce personnage de Frankenfurter, qui est joué par Tim Curry, c'est une espèce de travesti transsexuel, c'est pas très clair, et qui va créer un personnage, un scientifique fou, apparemment extraterrestre, qui... Oh oui, parce qu'il y a un peu de tout.
Ah
oui,
il y a des niveaux là-dedans. Là,
oui, exactement. Et qui va créer un espèce de personnage, une créature, mais une créature divine.
Il se sculpte un amant idéal, là, qui est le Rocky, qui est le jeune homme qui est sculpté très, très, très musclé.
Et qui aura le mauvais goût d'être hétérosexuel.
Voilà, exactement. Alors que Frank...
Il y a une grande déception du docteur.
Il y a quand même l'espèce d'idéal arien aussi. Il est blond, exact. Musclé,
c'est vrai.
Grand. Ça aussi, c'est un peu tordu. Ça ajoute une autre couche.
Oui, ben ça nous ramène peut-être aux années 50, justement, et aux sources d'inspiration de ces films-là.
Alors, vous avez apporté aujourd'hui, Martin Bilodeau, quelle excellente idée, des critiques émises à l'époque de la sortie du film dans une ville comme Montréal. Luc Perrault, qui a longtemps été critique au quotidien La Presse,
mon ami Luc,
ben oui.
Que j'aime beaucoup.
Qu'est-ce qu'il disait?
Mais en 1975, il n'a pas tellement apprécié. Dans un texte intitulé « L'horreur, mais pourquoi faire? », il en parle comme d'une bande musicale sans grande originalité qui s'insère dans le cours d'un récit sans parvenir véritablement à ameubler les temps creux. Mais le plus drôle, c'est ce qu'il dit ici à la toute fin, c'est dit « En fait, tout le film mise un peu beaucoup sur le côté asexué des personnages. C'est peut-être en ce sens que le film mérite d'être classé dans la catégorie des films d'horreur. »
Oh!
Mais on est en 1975 et Luc était un homme de son temps.
Il y avait quand même une montée du féminisme.
Oui, tout à fait. Je lui rends hommage, Luc, il lui manque beaucoup.
Olivier Arbourmas.
Mais ces personnages-là sont tous sauf asexués.
Oui, exactement. Ils sont au contraire hyper sexués.
Exactement. Oui.
Mais ça a été très, très mal reçu à l'époque là, par la critique. Et justement, vous en avez parlé en ouverture, Marie-Louise. C'est vraiment, ça a trouvé écho dans une sous-culture très particulière quand ça a été récupéré comme un film de minuit. Et là, il s'est construit tout un phénomène autour du film. Ce n'est plus que le film qui est intéressant, mais
c'est l'expérience,
culturelle, alors, l'immersion.
Décrivez ce qui se passe dans la salle, Olivier Arbourmas.
Par où commence?
Vous étiez avec deux amis, donc vendredi soir 20h, au balcon du cinéma impérial, qui est une salle absolument extraordinaire.
Oui.
C'est la salle idéale pour voir ce genre de choses.
À l'époque, le film est sorti au Séville, qui était une salle dans le même style.
Bon.
Sublime. C'était rempli à craquer aussi de jeunes gens qui embarquent pleinement dans l'aventure, qui sont déguisés, là, mais on voit beaucoup de peau.
Mais il y a une espèce d'absence d'inhibition qui est assez
vous avez fait une photographie que vous avez placée sur Facebook. On tentera de la retrouver et de la placer sur nos propres médias sociaux, sur notre compte Facebook et Twitter, si possible, d'un homme.
Je suis un pauvre garçon, j'espère que
je pense que c'est un homme, parce qu'on le voit de dos.
Oui.
Oui. Vêtu d'un simple soutien-gorge et d'une petite culotte noire.
Oui.
Oui. Et de talons hauts.
Et il n'était pas le seul. Hein. Vraiment, il était. Il y en avait 50. Il y en avait 13 à la douzaine.
Exactement. En fait, c'était ceux qui n'étaient pas déguisés comme nous qui étaient suspects. Oui. Il y avait beaucoup de peau, beaucoup de bas rasés, du cuir, des sous-vêtements en masse, des paillettes, des chapeaux. On essayait de reproduire un peu l'univers du film.
Oui, des personnages du film.
Exactement. Puis comme il y en a deux qui sont en bobette à peu près tout le long du film, il y avait pas mal de garçons, de beaux messieurs quand même aussi en bobette.
Bon, Martin, vous avez passé une belle soirée. Olivier, vous êtes allé jusqu'à enlever votre pantalon?
Ben voilà, parce que j'étais un peu trop. normal, si je peux dire, pour aller voir cette représentation-là. J'étais pas déguisé. Avant le début du film, pour me sentir accepté dans le groupe, j'ai retiré spontanément ma chemise.
Bon,
une dizaine de minutes plus tard, mon ami me faisait remarquer qu'il y avait absolument personne qui m'avait regardé, qui avait passé quelconque commentaire que ce soit. La représentation s'est amorcée et à un certain moment dans le film, il y a les deux personnages qui représentent la norme sociale, entrent dans le manoir, ils sont tout mouillés.
Janet et Brad.
On leur retire leurs vêtements.
Susan Sarandon.
C'est sûr.
On leur
c'est
retire.
C'est comme ça que c'est fait connaître, d'ailleurs. C'est dans ce rôle, oui.
Exactement.
Soutien-gorge et en petite culotte.
Avec raison. Oui. Et on leur retire leurs vêtements, synonyme de cette norme sociale. Oui. Et quand on retire leurs vêtements, il y a une jeune dame qui est assise quelques rangées devant moi, déguisée en Janet, qui se lève et arrache sa chemise. Et là, je vois Brad, le personnage qui est rendu seulement en boxer blanc.
Oui, dans le film.
Et là, je vois l'occasion, parce que je me souviens qu'est-ce que j'avais mis le matin, de tout à coup ressembler à un personnage à l'écran. Et j'ai spontanément retiré mes jeans.
Ben oui.
J'ai regardé donc l'entièreté du film en sous-vêtements.
Spontanément, moi, je suis resté assis.
Ouais. En tout cas, on n'a pas tous embarqué autant dans la magie de la représentation.
Vous avez eu visiblement beaucoup de plaisir. Bon, il se passe plein de choses. Au-delà des déguisements, il y a tout un rituel qui s'est organisé au fur et à mesure des années. En quoi ça consiste, Martin? Qu'est-ce qui se passe?
En fait, quand il y a de la pluie, par exemple, les gens portent des fusils à eau ou des pistolets à eau, des bouteilles d'eau, et puis ça se met à envoyer de l'eau.
Au balcon, on manquait cruellement de fusils. J'ai dû me promener pour arroser tout le monde, pour que tout le monde ait l'impression de vivre vraiment pleinement l'expérience.
Et puis bon, vendredi, moi, une des expériences les plus difficiles, en prévision de ça, c'était de trouver du papier journal, parce que j'en ai plus à la maison. Moi, je lis mes journaux sur le web, mais ça prend un papier journal pour se protéger de la pluie.
On
parce que dans le film,
journal,
Susan Sarandon se met un journal sur la tête pour se protéger de la pluie.
Ça le fait pas vraiment.
Et puis bon, à un moment donné, dans le film, on porte un toast, alors les gens se mettent à lancer des toasts, des dans la salle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi?
Le
papier de toilette, ça, c'est quand on déballe la nouvelle créature blondarienne que nous décrivait Nicolas Titley tout à l'heure, de ses bandelettes, parce qu'il vraiment, on le développe comme une momie, et là, tout le monde se met à lancer du papier de toilette, des rouleaux de papier de toilette dans la salle, et puis ça fait très bel effet.
Et le public aussi interagit en criant des phrases spécifiques à des moments particuliers.
Spécifiquement aux personnages de Janet et de Brad, quand on les voit apparaître. Bon, qu'est-ce que les gens disent à leur égard? C'est pas très
on va le dire, on
glorieux.
On s'excuse de la maison, là, mais Brad, il faut dire « asshole, trou de cul ». Et Janet, on dit « slut ».
Bon.
Donc,
dans une perspective d'avant-garde, là, en ce qui a trait, à l'orientation sexuelle ou au féminisme, ça vous a fait réagir comment, ça, d'avoir à crier « slut », Martin Bilodeau?
Moi, ça m'a fait... J'ai trouvé que parce qu'il y a un commentaire en voix off aussi qui est lu pendant le film, en même temps qu'il y a des acteurs sous la scène, sous l'écran, qui miment ce qui se passe à l'écran.
Oui, c'est ça, il y a des danseurs qui sont là aussi, en dessous de l'écran.
Voilà. Ouais. Mais donc, moi, je trouvais que le commentaire, souvent, assez misogyne et assez homophobe. Donc, je vois qu'il y a un paradoxe ici. Je fais OK, j'entends un commentaire. En même temps, je vois une salle qui se sent complètement libérée, complètement désinhibée. Ouais. En même temps, un commentaire homophobe et misogyne auquel tout le monde participe, mais avec un énorme enthousiasme.
C'est comme si on se donnait le droit de dire des choses qu'on ne peut plus dire aujourd'hui.
C'est vrai.
Exactement.
Ouais.
Moi, j'avais un certain malaise avec l'emploi du mot slot, surtout vu l'actualité des dernières semaines. Mais. Ça fait partie du phénomène et je crois que ça fait partie aussi de la réappropriation et de l'identification de ces gens de cette communauté-là, là, transsexuelle, homosexuelle, queer, qui se sont réappropriés ce langage injurieux. Pour
rire d'eux-mêmes
exactement.
Aussi. Oui, ça fait partie du phénomène. Comment on peut décrire cette expérience-là? Quel regard on peut porter là-dessus? C'est cathartique, Martin?
Oui, je pense qu'il y a une libération là-dedans, tout à fait. Oui, c'est cathartique. C'est un plaisir d'être ensemble aussi. C'est quelque chose qu'on voit plus souvent aujourd'hui.
Ça, c'est très rare aujourd'hui.
Juste le fait que ce phénomène-là serait impossible à créer aujourd'hui, simplement parce qu'un film qui se pose sur un écran pendant un an, ça ne se fait plus. On laisse plus le bouche-à-oreille opérer comme ça et un culte se créer. Donc, les cultes,
c'est de l'ordre du rituel.
C'est de l'ordre du rituel, complètement. Ouais. C'est une grand messe. Et puis, je pense vraiment qu'il y a quelque chose... ça a traversé les âges et c'est assez surprenant. Je serais assez curieux de savoir comment est-ce que ce rituel-là s'exprimait en 1990 et en 2000 mm-hmm. versus aujourd'hui en 2016.
Je crois que ce serait assez semblable. En fait, ça s'est construit, c'est une identité qui s'est construite, une façon de faire qui s'est construite très rapidement et qui a des traditions qui se maintiennent jusqu'à aujourd'hui. Je trouve ça intéressant que les jeunes générations le récupèrent, mais c'est un thème qui était peut-être très d'actualité à l'époque, mais qu'il est tout autant
mais on aujourd'hui. On est plus conservateur aujourd'hui ouais. qu'on l'était en 1976, ouais. et c'est pour ça que je me pose la question. Comment est-ce qu'aujourd'hui on trouve encore plus
de plaisir ou de besoin?
C'est ouais. ça, voilà. C'est ça, c'est une expérience de l'interdit, c'est tout à fait le mot.
Oui. Alors, c'est très couru. Hein. Il y a deux représentations encore ce soir, l'une à 20h à 23h. Lorsque vous y étiez, vous, vendredi soir, il y avait une longue file quand oui. vous êtes sorti de la salle de l'Impériale qui attendait pour voir la représentation.
Ça fait partie du show.
Mais une longue file qui tournait là, de Bleury vers Sainte-Catherine. Il y avait des gens qui jonglaient avec du feu pour animer les gens qui attendaient. Non, vraiment, c'est le plaisir d'être ensemble et de vivre et de créer quelque chose qui ne relève pas seulement de ce qui est projeté sur l'écran.
Alors, Olivier Arbourmas et Martin Bilodeau, on va placer les références de ces deux représentations à venir ce soir à l'Impérial du Rocky Horror Picture Show. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
Plaisir.
À venir, en deuxième heure.
On redéfinit le Parti démocrate avec Philippe Bernier-Arcan.
Un entretien avec Denis Ellis-Béchard pour son nouveau roman Dans l'œil du soleil.
Et au club de lecture, Marc Watteux, Ogden Ridjanovic et Geneviève Guérard.
Plus on est de fous, plus on lit, encore plus de nous!
Ici Marie-Louise Arsenault, toujours en direct du studio 17 de Radio-Canada à Montréal. Nous retrouvons sur ce plateau le journaliste Nicolas Titley. Vous êtes là, Nicolas?
Je suis là.
Oui, et vous avez bien survécu au gala de la disque, d'ailleurs.
Absolument.
Hein? Oui.
Il paraît qu'on m'a même vu en gros plan.
C'est donc vous?
Oui, j'étais dans la salle.
J'ai pas regardé, je vous ai pas vu.
Je me suis pas vu moi-même.
Avec votre douce moitié. Et nous accueillons les membres du club de lecture de ce lundi 31 octobre. L'animatrice et professeure de yoga Geneviève Guérard. Bonjour Geneviève.
Bonjour Marie-Louise.
Vous avez lu pour nous Un cœur sombre. C'est le 10e roman de R.J. Hillery, un roman policier avec un personnage de très mauvais garçon, auquel vous vous êtes attaché d'ailleurs.
Un truand qu'on adore, salaud qui a une vie épouvantable.
Mais ça, c'est un vrai bon écrivain. Il se réussit à nous rendre attachants à un truand.
Et à avoir un plaisir morbide à le voir se démener dans cette vie épouvantable.
Ben oui, parce qu'on peut dire qu'il a beaucoup de problèmes, plus que vous, dites-vous d'ailleurs.
Et c'est que mon voisin aussi.
Ça me rassure. Nous retrouvons aussi Ogden Ridjanovic. Bonjour Ogden.
Bonjour Marie-Louise.
Membre des groupes À la Claire Ensemble et Red Next Level. Parmi vos nombreuses activités, vous avez lu pour nous Continuer, c'est le 11e roman de Laurent Mauvignier. C'est l'histoire de Sybille, qui a la quarantaine, qui considère avoir raté sa vie et qui veut éviter à son fils de faire les mêmes erreurs. Elle va l'amener en voyage.
Oui, ils vont partir au Kyrgyzstan, traverser les plaines à cheval, avec pour but de réenchanter son fils à la vie, au sens, et puis redonner un sens à tout ça.
Vous avez aimé ce roman. Vous qui aviez lu Mauvignier il y a 2 ans, vous n'aviez pas aimé ce roman. Et là, vous découvrez un auteur qui est capable de vous plaire, en fait.
Oui, j'avais lu Autour du monde. J'avais trouvé ça un peu kitsch, mais celui-ci, je trouve ça réussi. Je trouve qu'il y a un bel équilibre.
Merci, Ogden. Et nous accueillons aussi le réalisateur Marc Watteux, membre de ce club de lecture. Vous avez lu pour nous L'insouciance. C'est le 10e roman de Karine Thuil, dont nous avions beaucoup aimé Marie-France Lemaine, réalisatrice de cette émission, et moi-même, le roman précédent, L'invention de nos vies. Alors, vous partez avec un bel enthousiasme.
Je partais avec une équipe derrière qui me disait « faut que tu lises ça ». Alors, je l'ai lu. Puis,
vous êtes déçus.
Je file un petit peu mal de ne pas avoir... Je colle pas au plafond, là. Puis pourtant...
La critique est très, très, très enthousiaste en
France. Il y a juste l'Express que j'ai lu ce matin qui vraiment a détesté ça. Ah. Mais moi, je n'ai pas détesté. Je suis juste un petit peu déçu. Il y a comme 3 romans et demi en un là-dedans. Puis je sais pas. En tout cas, c'est une question de structure. On va en parler.
Et nous accueillons avec joie sur ce plateau Denis et Élise Béchard. Bonjour.
Bonjour.
Vous publiez demain un très, très bon roman que nous avons beaucoup aimé, intitulé Dans l'œil du soleil. C'est un roman campé en Kaboul en 2012, ville que vous connaissez. Vous y avez vécu, vous y avez travaillé comme journaliste indépendant. Quel est votre souvenir marquant, un souvenir marquant de cette époque?
J'en ai plusieurs. C'est difficile parce que je pourrais bien dire qu'un souvenir marquant, c'est quand j'étais dans une automobile et une roquette a frappé un bâtiment en face de moi. Ça, c'est certainement marquant, mais c'est peut-être pas la chose la plus marquante. Le plus marquant, c'était Une fois que je suis arrivé à Kaboul, j'étais enrhumé et je me mouchais dans l'avion et tous les gens ont quitté le rang, se sont sauvés. J'étais tout seul dans ma partie de l'avion. Et quand je suis arrivé, j'ai parlé avec un ami afghan et j'ai dit, mais pourquoi est-ce que les gens ont l'air gênés quand je me mouche? Et il a dit, ah, c'est totalement une insulte aux autres, on fait pas ça ici.
On se mouche pas en public en Afghanistan. D'ailleurs, vous êtes servi de cette anecdote pour faire vivre la même chose à votre personnage
Exactement.
De Justin.
Exactement. Ouais.
Merci, Denis. Bienvenue à tous ceux qui joignent à nous. La relance de l'enquête du FBI sur les courriels d'Hillary Clinton a permis à Donald Trump de remonter dans les sondages. En Floride, le scrutin s'annonce plus serré qu'auparavant. C'est ce qu'indiquent les premiers sondages, dont un sondage de la ABC qui a été publié hier. Aussi, un sondage du New York Times. Donc, coup de théâtre à une dizaine de jours de l'élection présidentielle. Pour la représentante du Parti démocrate, qu'est-ce qu'est le Parti démocrate? Donc, nous avons redéfini le Parti républicain en compagnie de Michel Séauger la semaine dernière. Attaquons-nous à cet autre parti américain. Comment le Parti démocrate a-t-il traversé les siècles depuis sa création en 1793? Pour redéfinir le Parti démocrate, nous accueillons sur ce plateau notre collaborateur, Philippe Bernier-Arcan, auteur et essayiste. Philippe Bernier-Arcan, le parti a été créé avant le Parti républicain, le Parti démocrate, 1793 par Thomas Jefferson.
Mais en fait, le Parti démocrate est le doyen des partis politiques, non seulement aux États-Unis, mais au monde. Mais il a connu plusieurs versions. Et la version moderne qu'on connaît aujourd'hui date plutôt de 1825, suite à une scission du Parti démocrate républicain.
C'est comme ça qu'il s'appelait au début, Parti démocrate républicain.
Oui, avant de prendre le côté démocrate. Oui. Et son premier président, le premier président élu en 1829, issu du Parti démocrate, sera Andrew Jackson. Et Andrew Jackson aura notamment marqué l'histoire pour son soutien à la déportation des Amérindiens à l'ouest du Mississippi, son soutien à l'esclavage et comme étant un politicien extrêmement populiste. Alexis de Tocqueville, dans son fameux voyage en Amérique, était à l'époque d'Andrew Jackson et il va le décrire comme un esclave de la majorité. Et évidemment, son populisme va attirer les railleries de ses adversaires politiques. Alors, ils vont s'amuser à transformer son nom Jackson en Jackass, qui, en argot américain, signifie un âne. Alors, se faire traiter d'âne, c'est certainement pas flatteur, c'est même plutôt insultant, mais Jackson va pourtant utiliser l'image de l'âne sur ses affiches électorales. Oui. Ça va même devenir un symbole, si bien qu'encore aujourd'hui, l'âne est le logo du Parti démocrate.
Non officiel, en fait. Hein? Non officiel comme logo.
Il fait toujours partie de l'imagerie.
Oui, tout à fait.
Et c'est à peu près tout ce qui reste du Parti démocrate de l'époque. Et c'est très, très difficile de trouver une identité au Parti démocrate parce qu'on a l'impression qu'il est continuellement en crise identitaire. C'est pas un parti avec une identité régionale forte.
Oui, c'est un parti des grandes villes, dit-on.
Mais c'est-à-dire, quand on regarde la carte électorale des États-Unis, vous savez, ces cartes en rouge et bleu, rouge, républicain, bleu, démocrate, on va voir les deux côtes en bleu et le nord-est des États-Unis en bleu, le reste en rouge. Mais pourtant, à ses débuts, le Parti démocrate est un parti esclavagiste. Les abolitionnistes vont plutôt se retrouver du côté républicain.
Mais oui!
Parti républicain qui va naître quelques années plus tard.
C'est comme si les deux partis avaient fait un changement de personnalité, en fait.
Quand on regarde la carte électorale de Lincoln, on a l'impression d'une carte inverse, c'est-à-dire qu'il avait l'appui de la côte pacifique et du nord-est des États-Unis. Et les États du Sud, en fait, vont avoir le vote démocrate jusqu'aux années 60. Jusqu'au moment des droits civiques. Mais pourtant, le Sud est toujours associé à l'image démocrate, puisque les présidents américains démocrates qui ont suivi venaient du Sud. Jimmy Carter de la Géorgie ou Bill Clinton de l'Arkansas.
Oui. D'ailleurs, Bill Clinton a fait... Bon, on a l'impression que ce sont les présidents qui ont transformé l'image du Parti démocrate au fur et à mesure où ils ont été élus, par exemple. On pourrait dire que sous Carter, c'était un parti plus à gauche que ce qu'il était sous Bill Clinton, par exemple, le Parti démocrate.
En fait, évidemment, les présidents vont donner la personnalité au parti, mais ça n'empêche pas que plusieurs courants qui existent. Alors, juste la dernière course à l'investiture entre Bernie Sanders et Hillary Clinton, il y a d'énormes différences. Oui. Il y a un courant progressiste qui, lui, va plutôt défendre une social-démocratie à l'européenne, la défense des minorités et un protectionnisme économique.
C'est Roosevelt, d'ailleurs, qui va représenter ce vrai courant plus socialiste à l'époque des années 30 avec son fameux New Deal après le crash de 1929.
C'est vraiment à partir de cette crise-là que le parti va avoir une image progressiste. Et il y a aussi un autre élément marquant, c'est les droits civiques qui vont arriver dans les années 60, où là, il va y avoir vraiment une scission avec les États du Sud. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut véritablement définir la personnalité du Parti démocrate. C'est le parti des minorités. celui qui va réussir à créer des coalitions avec des groupes différents, voire opposés, un rassemblement de minorités, d'exclus, de tous ceux qui n'appartiennent pas à la mainstream America.
Oui.
Parce que Roosevelt, c'était quoi? C'était une coalition d'ouvriers du Nord-Est et des Grands Lacs. C'était aussi des fermiers des plaines et de l'Ouest. Et c'était aussi, il ne faut pas l'oublier, des conservateurs du Sud. Et toutes sortes de minorités vont être associées à l'histoire du Parti démocrate. La communauté irlandaise, par exemple, dès le 19e siècle.
Oui.
Et le premier président catholique, John Fitzgerald Kennedy, était issu de la communauté irlandaise.
Oui, absolument.
On pense aussi à la communauté afro-américaine.
Bon, évidemment, représentée par Barack Obama. Par lui qui a rallié le vote Obama. Des communautés, évidemment.
Et comme autre minorité, on peut aussi penser aux femmes, qui sont ironiquement une majorité, et qui, suite au conservatisme social du Parti républicain, notamment toute la question de l'avortement, vont, à partir des années 90, voter en majorité pour le Parti démocrate.
Comment on pourrait le définir sous l'articulation de la personnalité d'Hillary Clinton, le Parti démocrate aujourd'hui?
Hillary Clinton appartient à un mouvement comme Barack Obama avant elle, comme Bill Clinton avant elle, au courant qu'on peut appeler les New Democrats.
Oui.
Qui sont très semblables au New Labour au Royaume-Uni de Tony Blair, cette fameuse troisième voie où on va aller chercher une coalition plutôt hétéroclite entre à la fois Wall Street, Hollywood, la Silicon Valley, mais aussi les minorités culturelles, certaines communautés minorités culturelles, la communauté LGBT et des groupes plus démunis. Mais ça n'empêche pas que ça a été un des défis du Parti démocrate, puisque à force de faire la promotion de minorités culturelles et sexuelles, il y a un groupe qui va se sentir délaissé. C'est celui des classes populaires et ouvrières, qui faisait pourtant partie de la coalition du New Deal. Mais on a remarqué que, parce qu'il n'y avait plus cette volonté de progression sociale qui caractérisait ce parti, qu'on a plutôt mis l'emphase sur les minorités culturelles et sexuelles, on a remarqué que plusieurs population ouvrière qui votait démocrate dans les années 60 se sont tournées vers le Parti républicain dans les années 80. C'est ce qu'on a appelé les Reagan Democrats.
Oui. C'est un parti qui va avoir une prise de conscience à faire en cas de victoire, certainement à cause de la rhétorique de Donald Trump qui prétend qu'il n'a pas l'intention, ou en tout cas il met un doute sur son intention d'accepter le résultat, ou en cas de défaite, ce qui est envisageable à la lumière des sondages qui viennent de paraître.
C'est tout à fait envisageable. Et quand on regarde l'histoire suite aux années 60, le Parti démocrate n'a pas eu souvent le pouvoir, parce qu'il y a une coalition très, très difficile à aller chercher. Rassembler différentes minorités avec des intérêts opposés, essayer de faire une majorité, tandis que le Parti républicain, et là ça peut paraître caricatural, mais à l'opposé d'être le parti des minorités, est plutôt le parti de l'homme américain blanc, moyen, hétérosexuel. Et c'est beaucoup plus facile d'avoir un discours cohérent lorsqu'on est le parti de la majorité plutôt que le parti des minorités. Et ça peut paraître caricatural, mais quand on regarde effectivement la campagne Clinton-Trump, c'est plutôt bien illustré. Et aussi, c'est toujours le défi du Parti démocrate qui est toujours en crise identitaire à chercher une coalition de minorités.
Philippe Bernier-Arcand, on va évidemment placer les références des ouvrages qui ont nourri votre réflexion autour de cette redéfinition du Parti démocrate sur notre site web. Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Avec Marie-Louise Arsenault, plus on est de fous, plus on lit.
Sur ICI Radio-Canada, première.
4, 5, 5, 6.
Pour nous suivre sur Twitter et échanger avec nous, twitter.com/ plus on lit.
Dites-nous tout.
Nous accueillons sur ce plateau aujourd'hui Denis et Élise Béchard, journaliste indépendant, photographe, romancier, essayiste, né le 13 novembre 1974 dans une petite île de la Colombie-Britannique d'un père braqueur de banque et d'une mère hippie. Enfance que vous avez racontée avec beaucoup de talent d'ailleurs dans un roman intitulé Remède pour la faim. Voilà le titre, Geneviève Guérard, vous vouliez le savoir absolument. Et vous devez lire ce roman parce que c'est très beau. Roman paru en 2012 en français. Depuis une vingtaine d'années, Denis, vous avez voyagé selon votre propre site web dans une soixantaine de pays à travers le monde, l'Irak, l'Inde, le Congo, la Colombie et l'Afghanistan, où vous avez séjourné à plusieurs reprises entre 2009 et 2014 pour un séjour total de 8 mois. Qu'est-ce que vous faisiez là-bas?
Je suis allé parce que je voulais... Ben, je suis journaliste aussi, je voulais écrire des articles, c'est certain, mais je voulais surtout comprendre ce qu'on faisait là-bas. Mettons, quand on on voit les explications de notre implication en Afghanistan dans les médias, oui. c'est très difficile de vraiment savoir ce qu'on est en train de faire et notre impact. Et il y a un côté de il y a beaucoup de journalistes qui vont toujours dire que ce qu'on fait est positif, que et maintenant c'est tout négatif ce qui sort. Donc je me suis dit, j'aimerais voir moi-même ce qui se passe et comprendre un peu notre impact sur ce pays.
Oui. Rappelons que c'est un pays qui a été envahi officiellement par une coalition menée par les Américains tout de suite après les événements du 11 septembre 2001, en principe pour traquer Oussama Ben Laden. On a découvert quand on lisait sur la chose qu'il y avait d'autres motifs financiers, économiques. Qu'est-ce que vous avez découvert? Vous vous dites, je suis allé pour comprendre.
Mais ce que je voulais voir, c'est mettons, est-ce que les Afghans étaient aussi accueillants que les gens disaient? Il y a beaucoup de gens qui disaient, oh, bon, les Irakiens n'ont jamais été accueillants. Oui. Ils ne voulaient jamais qu'on s'implique. Il y a beaucoup de gens qui disaient que les Afghans étaient accueillants. Et ce que j'ai vu, c'est que c'était compliqué. Il y a beaucoup de différents Afghans. Il y avait beaucoup qui n'étaient pas du tout accueillants, qui n'étaient pas très contents de nous voir. Il y avait des autres qui travaillaient bien avec nous. Ce qui m'a étonné, ce que je dirais, c'est que j'ai écrit mon livre, c'était sur les civils là-bas. C'était sur les civils en Afghanistan. Et ce qui m'a étonné, c'était l'implication des civils dans la guerre. Quand on pense à une guerre, on pense aux militants.
Aux militaires.
Ouais. On pense aux militaires, on pense aux soldats, on ne pense pas aux civils. Et quand je suis arrivé, je me suis dit, voilà une histoire qu'on ne raconte pas. C'est l'implication des civils dans un système néocolonial pour créer une culture qui n'est pas afghan, qui n'est pas américain, mais qui est finalement une culture coloniale. On crée une culture afghane qui est loyale à nous autres. Donc, c'est un peu l'histoire de la Grande-Bretagne en Inde, c'est un peu l'histoire de tous les systèmes coloniaux. Oui. Et donc, ce livre, j'étais inspiré pour écrire ce livre, pour vraiment regarder c'était quoi la culture des civils en Afghanistan.
Alors, ce roman, donc, que vous lancez demain officiellement en français dans L'œil du soleil, c'est un roman choral articulé autour de plusieurs personnages. Ils sont nombreux. Il y a Michiko, on apprend son nom au fur et à mesure. Oui. D'ailleurs, moi, je me suis rendu compte que je pensais que c'était un homme au début. Et puis, à un moment donné, j'ai découvert que c'était une femme. Est-ce que c'est voulu, ça?
Oui, c'est voulu.
Hey, c'est réussi. À un moment donné, je me suis dit, bon, j'ai pas compris. Est-ce que c'est une faute? Parce que là, tout à coup, l'action était décrite d'un point de vue féminin. Vous avez fait exprès, là?
Oui, j'ai fait exprès. C'est que si on regarde très proche, on voit que ça ne peut pas être un homme. Même il y a une femme afghane qui parle à elle de la sexualité, ce qu'une femme afghane ne va probablement pas faire avec un homme. Mais il y a beaucoup de petits indices qui nous montrent que c'est une femme. Mais ce que je voulais, c'est que je voulais que le lecteur projette sa façon de voir le monde sur les personnages.
Eh oui, moi, je pensais que c'était un homme, parce que ce personnage-là est en relation avec une femme.
Exactement.
Tam, qui est journaliste, très téméraire. Alors, c'est Michiko qui va raconter l'histoire à la base, dès le départ. Elle va raconter, en fait, un triangle amoureux et un attentat qui va mal finir, qui implique ce triangle amoureux entre Alexandra, qui est une Canadienne, une avocate, qui est là pour défendre les droits des femmes en Afghanistan, Justin, qui est un professeur qui va venir enseigner aux jeunes filles dans une école, une espèce d'illuminé, quelqu'un qui est armé d'une mission.
Très chrétien. Ouais.
Et Clay, qui est un ancien soldat, qui est un ami d'enfance de Justin, on va le découvrir au fur et à mesure dans l'histoire, puis qui est devenu, vous disiez, ces personnages parallèles à la guerre. Lui, il va devenir ce qu'on appelle, bon, un mercenaire, quelqu'un qui gagne sa vie dans le privé après avoir été soldat.
Oui, c'est ça.
Est-ce qu'ils sont représentatifs de gens que vous avez pu côtoyer? Est-ce que vous vous êtes inspiré de ce que vous avez pu voir?
Oui, absolument. L'impression que j'avais en arrivant à Kaboul, c'était comme si j'étais arrivé dans une ville du Wild West américain. Quand on parle de ces villes champignons, il y a quelqu'un qui découvre l'or et d'un coup, on a les mercenaires qui arrivent, les missionnaires, les gens qui veulent devenir riches d'un jour à l'autre, les gens qui veulent aider, établir la société, faire des banques. Donc, on voit à Kaboul, il y avait eu tellement d'argent de développement qui était versé dans cette ville. Et c'est une ville qui était la population, c'était environ
400 000. C'est
aujourd'hui, c'est entre 4 et 6 millions. C'est une ville.
Ça a explosé.
Il y avait tellement d'argent qui était versé là-bas et il y a tellement d'étrangers qui sont allés pour s'enrichir. Et non seulement pour s'enrichir, mais pour se réinventer. Il y a des gens qui arrivent, qui n'ont aucune expérience dans un pays comme l'Afghanistan, qui n'ont jamais fait de journalisme, qui se disent, je vais être journaliste, Et on voit sur les médias sociaux comment ils se réinventent. Ils deviennent des figures quasiment coloniales, comme des grands aventuriers de l'Empire britannique.
Ouais. vous l'expliquez bien, c'est le cœur du roman, en fait, c'est le questionnement à savoir pourquoi on va là et qu'est-ce qu'on fuit quand on va là. Vous allez lire un extrait où vous expliquez, en fait, qui sont ces gens et qu'est-ce qui les anime, Denis, Élise Béchard. On vous écoute dans cette version, donc dans cet extrait de Dans l'œil du soleil, votre roman.
Tous les expats avaient en commun, plus qu'ils ne voulaient bien l'avouer, une certaine dépendance, une incertitude quant à ce que nous ferions si nous rentrions chez nous, une impression d'être éveillés, nos sens électrifiés chaque fois qu'on sortait et qu'on percevait le moindre détail dans la rue. Nous avions l'impression d'être tout proche du cœur brillant du monde, non pas protégé, ni en train de regarder un écran, les yeux plissés. Nos pages Facebook et nos fils Twitter se lisaient comme des dépêches. Et quand nous entendions l'explosion d'une voiture piégée à l'autre bout de la ville, nous savions que nous n'étions qu'à quelques minutes d'un événement que le reste de la planète verrait aux nouvelles. Nous étions aussi des fabricateurs. Tout le monde, pris dans la liberté de l'invention, croyait aux personnages qu'on voyait émerger sur le fil de nos médias sociaux. La guerre est une collision de fiction. Tous ceux qui sont impliqués, qu'il s'agisse des militaires ou des employés d'ONG, jurent que leurs actions ont une signification et un retentissement profond.
Oui. On va voir, c'est un extrait de ce roman, donc très réussi, Dans l'œil du soleil, qui est campé à Kaboul en 2012. Donc, la guerre n'est pas terminée. On est à peu près 10 ans après l'invasion du pays par les Américains, mais aussi par les Canadiens. Il y a ce questionnement aussi de l'attrait de la guerre. Les gens vont là aussi pour ça. Ils sont attirés par la guerre. Pourquoi?
Il y a beaucoup de raisons. On peut dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont là pour s'enrichir, c'est certain. Il y a beaucoup de gens qui vont là pour se réinventer aussi. Être un journaliste, même 5-6 mois à Kaboul, ça donne une certaine autorité. On peut partir tout de suite et dire, ah oui, j'ai travaillé à Kaboul, j'ai publié quelques articles, et c'est plus facile de s'établir en tant que journaliste.
Ça sonne bien.
Ça sonne bien. Et puis, il y a aussi des gens qui fuient quelque chose, je dirais. Et dans ce livre, ce que j'explore, c'est l'idée qu'on fuit des traumas. C'est des personnages qui sont très blessés, des personnages qui sont cassés, qui soit ils manquent de but dans la vie, ils vont nulle part, ils se sentent un peu perdus aux États-Unis, finalement, qui s'en vont en Afghanistan pour sentir important, pour sentir qu'ils peuvent aider les autres, qu'ils peuvent guérir les autres. Ouais. Ce qui est un peu ce que les États-Unis et le Canada font en tant que pays sur le stade mondial, c'est de dire on sauve les autres, on sauve les autres pays.
Mm-hmm. On va exporter par exemple la démocratie.
Exactement.
C'est ce qu'on disait à l'époque.
Tandis qu'on peut à peine dire qu'on a la démocratie aux États-Unis, on a un système qui souffre tellement, on a tellement de violence entre les classes, violence entre les groupes ethniques, on a tellement de violence même sexuelle aux États-Unis, et de dire qu'on s'en va en Afghanistan pour sauver les femmes afghanes quand on peut à peine gérer nos propres problèmes. C'est ridicule. Dont les personnages sont l'incarnation, vraiment l'incarnation de cette psychologie américaine.
Ouais. Cette volonté de participer à quelque chose de plus grand que soi, c'est ce que vous faites dire,
absolument,
d'ailleurs, à votre personnage de femme japonaise qu'on prend pour un homme au départ, d'ailleurs. Il y a cette passion de l'armée aussi, qui est représentée par le personnage de Clay, même le personnage de Justin. D'ailleurs, l'armée, et vous vivez aux États-Unis, vous vivez à New York. Quelle perception on a de l'armée dans un pays comme les États-Unis? On a l'impression que c'est un symbole du bon fonctionnement.
C'est vu de façon très positive. Quand j'étais plus jeune, c'était vu de façon très négative. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait eu une espèce d'attaque contre les gens qui étaient contre la guerre du côté de George Bush, où l'administration de Bush disait « Vous êtes anti-américain, vous attaquez nos soldats. » Mais ces gens-là étaient en train d'attaquer la guerre et pas les soldats. Mais ça fait que on a eu une espèce d'éloge de tous les côtés du soldat. On dit maintenant être un ancien guerrier, il n'y a quasiment rien de meilleur aux États-Unis. Si quelqu'un se présente et est ancien guerrier, le respect que tout le monde va donner, j'avais jamais remarqué ça avant. Donc il y a beaucoup il y a des personnages aussi qui regrettent de ne pas avoir pu qui auraient aimé être militaires, qui auraient aimé participer à la guerre d'une façon plus concrète, qui y vont pour participer à leur façon. Donc, une espèce de culpabilité culturelle chez ceux qui n'ont pas pu aller à la guerre, qui vont y aller pour un peu justifier leur existence et se sentir plus américain.
Il y a l'éducation des filles aussi qui est au cœur du roman. On sait que c'est un enjeu important en Afghanistan où on empêche les jeunes filles de fréquenter les écoles. Il y a le personnage de Frank, qui est un Américain, homme d'affaires, idéaliste, qui prend sa retraite, qui est assez âgé, puis qui décide d'aller ouvrir une école. L'école du futur, l'école du lendemain.
Oui, c'est l'Académie du futur.
Oui, Et puis, bon, est-ce que c'est vrai que, à votre avis, l'avenir d'un pays comme l'Afghanistan passe par l'éducation des filles? Ça peut paraître cynique dans le roman, mais il reste que c'est un enjeu important.
Je crois que pour toute la planète, l'éducation des filles, selon moi personnellement, je crois qu'on ne peut pas trop espérer que les hommes vont nous construire un futur cohérent. Je crois que l'éducation des femmes est extrêmement importante. Je ne suis pas contre ça. Le livre est plutôt critique de cet esprit chez l'Américain d'aller dans un autre pays et de dire on est là pour sauver vos femmes et d'écarter les hommes. Les hommes afghans ont autant de diversité que les hommes québécois, que les hommes américains. Mais ce qui arrive, c'est que si on va dans un pays et on écarte les hommes et on dit les hommes sont les ennemis ici, les hommes sont le problème, on fait une solidarité où il n'y en avait pas avant. Donc, d'un coup, je voyais des hommes très conservateurs et des hommes très libéraux qui commençaient à s'entendre.
À s'unir.
C'est ça. Ouais,
pour contrer l'invasion étrangère. C'est très colonialiste comme mentalité.
Exactement.
Effectivement. Je lisais Robert Fisk il y a quelques semaines dans un regard qui portait sur l'Afghanistan aujourd'hui, qui décrivait comme un désastre absolu. Qu'est-ce que vous pensez du sort de ce pays-là après le départ? Donc, les Américains, ils sont toujours, mais la guerre est terminée.
Mais la guerre n'est pas terminée, je crois.
Officiellement.
Officiellement. Je pense que... Mais les États-Unis sont en guerre partout au monde. Donc, une guerre officielle, je pense qu'on en aurait très peu dans les années à venir. Oui. Je pense maintenant, l'idée, c'est surtout des guerres où on envoie quelques soldats, special forces, comme on dit, pour gérer les soldats qui sont là-bas. Mais je pense que ce qu'on pourrait voir en Afghanistan, c'est des grandes villes qui restent sous le pouvoir du gouvernement. Un peu comme on voyait en Colombie, mettons, pendant 50 ans, les grandes villes qui restent sous le contrôle du gouvernement, pendant que la campagne est sous le contrôle du Taliban, jusqu'à ce qu'il y ait une entente entre les deux, où l'économie se développe assez avec la Chine qui s'implique maintenant avec le développement de l'économie du Pakistan. On voit beaucoup de changements économiques dans cette région. Donc, je pense que ça pourrait prendre 30, 40 ans pour qu'on voit vraiment un pays... Qui se relève de tout ce qui a pu
se passer. Alors, il faut lire absolument ce roman, Dans l'œil du soleil, votre nouveau roman, donc Campé à Kaboul, Denis-Élise Béchard, mais c'est un roman choral aussi qui se passe aux États-Unis, au Canada, entre autres. C'est publié chez Alto. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
Merci.
Sur Ici Radio-Canada Première, plus on est de fous, plus on lit, avec Marie-Louise Arsenault.
Suivre sur Facebook et échanger avec nous, facebook.com/ plus on lit.
Que lit la planète?
Nicolas Titley, que lisent les Belges?
Eh bien, du côté des essais, les Belges s'intéressent à leur histoire et en particulier à un personnage assez particulier qui s'appelle Léon de Grelle. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de lui. C'est la première biographie qui est consacrée à cet homme belge qui est le fondateur d'un mouvement qui s'appelle le Rexisme, mouvement politique d'extrême droite, d'allégeance nazie. En fait, il est devenu lui-même un nazi, alors que c'était au départ un gars qui était fasciné par la poésie, les arts, et tout d'un coup a viré...
Un peu comme Hitler,
complètement du mauvais côté et est devenu non seulement un collabo, mais carrément un membre des Waffen-SS. Donc, première biographie officielle qui est consacrée à Léon de Grelle. Et au numéro 1, ça se retrouve pas mal dans toute la francophonie. Nous en avons parlé à ce micro, Lettre à Anne de François Mitterrand. Donc, cette correspondance...
Plus de 1000 lettres envoyées pendant une trentaine d'années, là, pendant la durée de leur relation, donc avec Anne Pinjot et François Mitterrand.
Jeune femme à l'époque.
Elle avait 19 ans, il en avait 46 quand il l'a rencontré.
Ça fascine tout le monde. Les histoires de couchettes et de politiciens, ça intéresse tout le monde.
Il paraît que ça a été publié parce qu'il écrit bien.
C'est magnifique, c'est ce qu'on dit.
On va placer les références des livres dont il a été question avec vous, Nicolas Titley, au cours de ce segment sur notre site web. Merci.
Plus on est de fous, plus on lit est disponible en balado-diffusion. Pour la télécharger, rendez-vous sur le site web de l'émission à
ici.radio-canada.ca/ plus on lit. Yeah!
au club.
Club de lecture qui met en vedette le réalisateur Marc Ouatteux et Ogden Rijanovic, membre des groupes À la claire ensemble et Red Next Level, que nous allons commencer avec l'animatrice et professeure de yoga Geneviève Guérard. Vous avez lu pour nous Un cœur sombre. C'est le 10e roman de R.G. Ellery, romancier policier que vous connaissez. Marc Ouatteux, vous l'avez déjà pratiqué.
Moi, j'ai lu 3 livres de lui, dont Vendetta, qui était extraordinaire. Je dis le titre en anglais parce que je les ai lus en anglais. Puis Quiet Belief in Angels, qui était vraiment, vraiment bien. Ça, c'était avant le scandale qu'il l'a fait. Vous vous rappelez R.G. Ellery? Il likait ou il postait des trucs où il s'encensait, puis c'était lui finalement le personnage anonyme
qui publiait des critiques favorables de ses propres romans sur Amazon.
C'est ça.
J'ai pas aimé ça quand même.
L'ego des écrivains ne doivent pas entraver leur talent.
Ben,
alors c'est le cas parce que c'est une histoire que vous avez beaucoup appréciée. C'est une traduction évidemment de l'anglais qui met en vedette, qui met en scène en fait un personnage qui s'enfonce un peu comme le personnage de Fargo de plus en plus. Ça va mal, ça va de plus en plus mal.
Qui s'enfonce.
Oui. Digging his own grave, comme disent les Anglais.
Exactement.
En fait.
Ben, premièrement, il s'appelle Vincent Madigan. On parlait des noms des personnages. Ouais. Dès qu'on commence à lire, c'est un nom qui évoque une certaine élégance de cœur et d'esprit. Je trouve, tu sais, c'est un nom vraiment, mais c'est une brute, un truand.
Mauvais père, mauvais mari.
Il a été marié. Ben, il a 4 enfants allant de 3 à 17 ans. Il les voit jamais. Il a eu 3 femmes, une maîtresse. Il est divorcé. Il est séparé de tout. Il prend de la coke, il boit comme un trou, il enfile les barbituriques. Là, j'ai les expressions.
À la française. Ça fait traduction française,
il y a 4 barbiturique. Il enfile les barbituriques. Bon. Oui. Mais c'est bien traduit, cela dit. C'est, on a l'impression d'être dans un film français, mais bon, il n'y a pas d'erreur, vraiment. Mm-hmm. Ça rentre bien dans notre oreille. Dès la première page, la table est mise. Il y a du sang, il y a de la coke, du Jack Daniels et un gars qui ressemble à Tom Waits. Fait que...
bon, c'est pas
on voit dans
cliché,
quel monde
ça,
on est.
Non, on fait pas
ben,
ouf,
tout à
c'est
fait.
Beaucoup.
Non, bon. C'est beaucoup, mais c'est vraiment bien ficelé. Ouais. C'est un roman, tourne la page, tourne. Comment on traduit
mais
ça?
Mettez-nous
un
pas ça dans la tête.
Ben non, je sais, trop tard. Je vous l'ai mis dans la tête. Ouais. C'est un page turner. Alors, je vous donne un punch parce que j'ai pas le choix. J'ai beaucoup réfléchi à ce que je vais vous partager, mais j'ai pas le choix. Alors, on commence. On est dans Harlem. Vincent Madigan, il doit 75 000 $ au chef de la mafia qui s'appelle Sandia. Il a appris Sandia a une équipe qui a volé une banque, qui va amener l'argent chez lui. Lui, il forme une deuxième équipe et il va voler ce magot-là pour le remettre à Sandia. Fait qu'il vole le boss pour remettre sa dette au boss.
C'est une mauvaise idée, là.
Ça dégénère. Ouais. Il y a 7 morts. Il y a pas mal d'hémoglobine. Il y a 7 morts. Et au commissariat, on se dit qu'il faut absolument donner cette enquête au meilleur inspecteur qu'on a de la brigade des vols et des meurtres. Et j'ai nommé Vincent Madigan.
Aha!
Boum! M'avez-vous suivi?
Donc, c'est à la fois un truand puis un policier.
Mais c'est fabuleux de mettre la table comme ça parce que c'est le pire des truands qui va devoir lui-même enquêter sur le meurtre qu'il a commis et s'en sauver. Alors, mettre des preuves un peu partout pour que ce soit pas
c'est
lui.
C'est l'équivalent de publier ses propres critiques positives.
Exactement! Exactement! C'est un homme cohérent.
Mais oui, complètement. Et pourquoi c'est bon, R.J. Ellery?
Bon, premièrement,
parce que du roman policier, on en a lu.
Il y en a beaucoup.
C'est une recette, là. On la connaît.
C'est une recette. Oui. Ce n'est pas habituellement ma tasse de thé. Moi, j'écoute les nouvelles, puis ça me satisfait dans les mauvaises nouvelles. Oui. J'ai lu beaucoup Henning Mankell parce que c'est un talent extraordinaire. Mais il y a une lourdeur émotive. Hein. Il faut attacher sa tuque quand on lit du Henning Mankell parce qu'il nous amène
C'est sombre.
Ouais. Ici, il y a quelque chose d'assez particulier où il y a un équilibre entre la tête, les nerfs et les tripes qui est assez bien ficelé. Fait qu'on demeure super intéressé à ce qui arrive et en même temps, on ne s'attache pas à son désarroi parce que c'est un homme détruit. Je veux dire, il y a rien pour lui. Ça va vraiment mal. Mais... on lit ça avec un certain plaisir, tu sais, de se dire on ferme ça, puis ma vie va bien, moi. Fait que ça aussi, c'est un talent, je trouve, de ne pas sombrer là-dedans. Mais, fait que c'est ça. Mais c'est ça qui m'a accrochée à ce livre-là.
C'est une des clés aussi du plaisir qu'on prend à lire du policier, parce qu'effectivement, on se compare et on se dit, bon, ben,
exactement.
Ça va mieux, moi.
Pour être honnête,
j'ai tué personne.
Pour être honnête, il y a un centre mou à un moment donné où il y a une petite histoire d'amour qui cousue de fil blanc, où tu as l'impression qu'il va sauver la veuve et l'orphelin. Mais je n'ai pas été déçue parce que cette tangente, il ne l'a pas suivie. Ça devient autre chose.
Ça devient autre chose.
Fait que, bravo.
Marc Watteux,
je veux juste vous dire que Hillary est considérée par plusieurs comme probablement la figure de proue du nouveau mouvement du polar, même s'il y a quoi, il y a 40-50 ans à peu près, quelque chose comme ça.
Oui.
Et pour en avoir lu quelques-uns, je peux juste vous dire que d'une...
Ça, c'est pas flatteur,
non,
par
c'est pas flatteur. Oui. D'un livre à l'autre, le style change. Si vous avez un livre à lire de R.J. Hillary, lisez Vendetta. Vendetta, qui est un long interrogatoire, mais qui est absolument fascinant. Là. Non, c'est quelqu'un à suivre, c'est quelqu'un d'intéressant.
Alors, donc, ce roman de R.J. Hillary, Un cœur sombre en français avec une traduction franchouillarde, c'est publié aux éditions Sonatine. Retrouvons maintenant Ogden Ridjanovic, membre des groupes à la Claire Ensemble et Red Next Level. Vous avez lu pour nous Continuer.
Oui.
C'est le 11e roman de Laurent Mauvignier et on peut dire que c'est ce que vous avez fait, Continuer, parce que vous avez lu Laurent Mauvignier en 2014 autour du monde. Vous n'aviez pas aimé ça du tout, Ogden.
Non, c'est un des rares livres que j'ai détruit dans la critique à l'émission.
Vous, si positif. Et là, armé de votre courage, j'avais décidé de fréquenter à nouveau ce romancier. Et puis, vous en êtes sorti content quand
même. J'en suis sorti content. Je crois que c'est la prémisse, en fait, qui m'a intéressé. C'est, pour faire court, en fait, c'est une mère qui est très insatisfaite de sa vie et qui voit son propre fils qui a 16 ans sombrer dans la délinquance et elle veut le sauver d'un destin qu'elle considère...
Qu'elle pourrait être semblable aussi. Elle a la quarantaine.
Exactement. Ouais. En fait, elle... Plus jeune, elle avait un avenir très prometteur. Elle voulait devenir chirurgien et écrivaine. Mais elle va subir une tragédie. En fait, l'amour de sa vie va mourir d'un accident et elle va sombrer dans la dépression à partir de ce moment-là. Et tous ses rêves, toutes ses ambitions vont finir finalement aux poubelles. Elle va se marier à un homme qu'elle n'aime pas. Mmh. Elle va avoir un fils, Samuel. Et leur séparation au courant de l'adolescence de Samuel va laisser ce dernier dans le désarroi, mais ils vont pas s'en rendre compte, un peu un phénomène classique des parents qui se divorcent et qui voient pas que la victime principale est l'enfant. Et Samuel, à 16 ans, déménage avec sa mère à Bordeaux, se fait des nouveaux amis, un peu skin, ils vont aller dans une fête, ils vont saccager la maison, ils vont agresser une jeune fille.
Là,
et puis là, Cybèle devra aller chercher Samuel en prison pour aller le sortir de là, et elle va décider de tout mettre en pause dans sa vie, vendre la maison familiale pour être capable d'aller faire ce fameux rêve qu'elle a, qu'elle vient d'élaborer pour sauver son fils, c'est-à-dire d'aller au Kyrgyzstan, traverser les plaines à cheval avec lui. Plus jeune, il avait une passion pour l'équitation et elle se dit, pour le reconnecter à la vie, le reconnecter au goût de vivre, au sens, le sortir aussi de son obsession de toujours écouter de la musique tout le temps, être sur Internet.
Ouais.
Et puis, ils vont, à travers cette aventure-là, se confronter à une réconciliation mère-fils très difficile, dans laquelle il y a des thèmes que j'ai trouvé très intéressants. Par exemple, la jalousie qu'un fils peut ressentir auprès de sa mère, qui est maintenant célibataire et qui vit un peu une forme, elle aussi, de réenchantement de sa propre vie à travers ce voyage-là.
Jaloux des hommes potentiels autour de sa mère, par exemple?
Exactement, c'est exactement ça. Ouais. Puis on va les observer en train d'avoir des moments magiques où ils sont vraiment dans un peu un paysage idyllique, dans des plaines, à se faire inviter chez les locaux, aller manger, partager des repas dans les yourtes.
Ça ressemble à quoi comme pays, ça, d'ailleurs?
Ben, c'est des grandes plaines. Ouais. C'est l'Asie centrale. C'est des nomades. C'est des gens qui sont dans les steppes. C'est des gens qui sont des...
Bref, on est loin du Paris actuel.
Vraiment, exactement. Puis c'est pas un pays très touristique, là, absolument pas.
Ouais.
Et puis, mais ils vont aussi être confrontés à plusieurs moments à la mort. C'est-à-dire, au Kyrgyzstan, il y a une tradition qui est bien vue là-bas. En fait, les voleurs de chevaux. Et puis, ils vont à un certain moment être confrontés à des voleurs de chevaux. Ils vont à un autre moment traverser un morceau de plaine où il y a des glaciers qui sont en train de fondre et les chevaux vont avoir de l'eau glacée jusqu'aux genoux. Ils vont avoir peur de mourir à cet endroit-là. Et puis, à travers toutes ces péripéties, Cybèle va se demander, est-ce que j'ai bien fait d'amener mon fils ici? Est-ce que, en l'amenant aussi proche de la mort à plusieurs reprises, est-ce que j'ai pas plutôt commis un acte de folie? Et puis, à travers ces crises, elle va elle-même... sombrer, mais retrouver, si on veut, ses ambitions et sa joie de vivre. Et son fils Samuel, lui, va être confronté à sa peur de l'autre, à sa peur de ne pas être aimé, à sa peur de ne pas aimer les gens qui l'entourent, finalement, parce que son traumatisme, finalement, familial, c'est de se sentir blessé par ses parents, par sa famille. Et puis donc, j'ai trouvé que c'était très intéressant comme lecture parce que... On est loin de d'une réconciliation mère-fils cliché. J'ai trouvé ça quand même intéressant comme prémisse de partir.
Ça va ailleurs.
Puis aussi, je m'y attendais pas au début, mais finalement, ça devient un peu une dénonciation de la peur de l'autre quant aux problématiques qui sévissent en France en ce moment par rapport à la politique identitaire. Il va y avoir... Samuel va être confronté à sa peur des musulmans, à sa peur de ce qu'il considère la menace terroriste, etc. Puis ces gens-là qui sont des musulmans, mais non, qui sont pas des arabes, il va avoir une diversité culturelle différente. Mmh. Il va être confronté à ça. Puis il va... Je vous dirai pas le punch à la fin, mais il va grandir beaucoup et quand il va finalement retrouver son père est convaincu que cette aventure-là va mal se terminer, que c'est de la folie en fait, puis lui dit s'il arrive quoi que ce soit pendant que t'es en voyage, appelle-moi, je vais venir te chercher. Et finalement quand il va revoir son père va être assez bouleversé parce qu'il va voir que son fils s'est transformé, son fils est devenu quelqu'un d'autre. Et puis, à quelque part là-dedans, l'histoire se termine pas nécessairement avec une fin
hollywoodienne.
Une fin hollywoodienne, mais il y a quand même un peu un espoir pour changer et grandir.
Continuez donc de Laurent Mauvigné, c'est publié aux éditions de Minuit. Merci Ogden Rijanovic de l'avoir lu pour nous. Nous allons terminer ce club de lecture en compagnie. Oui, il vous reste 6 minutes. Hein? Puis il serait le fun que vous nous laissiez 30 secondes pour dire au revoir à Denis. Okay. Donc, vous allez commenter aujourd'hui un roman intitulé L'insouciance. C'est le 10e roman de Karine Thuil, romancière de grand talent. Je le disais en ouverture de deuxième heure, Marie-France Lemaine, réalisatrice de cette émission, et moi-même, on avait beaucoup aimé
L'invention
de nos vies, qui est une histoire intéressante, forcément actuelle, d'un jeune arabe qui grandit dans les cités parisiennes et qui va masquer son identité pour réussir à avoir un job d'avocat. Il va commencer à travailler en France, il va se retrouver à New York et puis évidemment, son mensonge va le rattraper. Là. C'est à la fois un thriller, vous dites un tour de la page, Geneviève Guérard, mais aussi une réflexion effectivement sur l'identité, les préjugés. Donc c'est une romancière qui est assise dans l'actualité, dans sa façon d'écrire.
Puis je vous dirais que pour ce livre-là, pour l'insouciance, elle n'est pas sortie de ces plates-bandes-là. C'est-à-dire que toutes les questions identitaires, là je vais dire un mot que j'aime pas, racial, les questions, l'espèce de malaise que la France a par rapport à son passé colonial, par rapport aux Noirs dans les cités, tout ça fait partie de ce livre-là où elle met en scène, je vous dirais, 4 personnages principaux et dont on suit les péripéties d'un chapitre à l'autre.
Alors, dont un soldat qui rentre de l'Afghanistan.
Alors voilà, c'est ça. Si j'avais eu le temps, je vous aurais vraiment lu un bout de ce livre-là, le deuxième chapitre du livre où Karine Thuil fait... En fait, pour moi, c'est une pièce d'anthologie, là, ce chapitre-là. C'est à la page 20, allez au magasin, prenez l'insouciance, lisez ce chapitre-là, c'est extraordinaire, où elle parle de ce que c'est vivre dans l'enfer afghan. Puis si j'avais à vous le lire, ça me prendrait 2 minutes. Alors, on va passer. Mais je vous jure, ça vaut vraiment
ce que vous
la peine.
Faire, hein,
c'est ça. Mais pour le reste du livre, on tombe dans un livre qui est très actuel, où elle explore justement les choses dont vous parliez, dont je vous parlais. Alors, il y a 4 personnages. Il y a Romain, qui est marqué justement par son retour d'Afghanistan. Il était en charge d'un petit escadron qui a été évidemment pris dans une embuscade. Il revient avec toute l'espèce de la mort dans l'âme de n'avoir pas pu protéger ses hommes de ce genre de truc-là. Puis bon, il y en a quelques-uns qui sont revenus, sinon indemnes, un peu amochés à Paris. Puis il va les fréquenter à travers ça. Mais bon, il va trouver Romain une espèce de pas de joie de vivre, mais de il va rencontrer une journaliste française qui s'appelle Marion sur place, puis ils vont avoir une aventure qui va se poursuivre à Paris. Mais Marion, ça se trouve être la femme... Elle est mariée. Et Marion, ça se trouve être la femme de François. François Villy, qui est un autre personnage du livre, qui, lui, est un multimillionnaire, milliardaire, un homme dans la cinquantaine que les gens aiment beaucoup, qui est un grand patron dans des entreprises de télécommunications. Son nom, c'est François Villy, mais son grand-père s'appelait Lévy, donc on devine qu'il y a tout un passé...
Encore quelqu'un qui a changé de nom.
Ben, c'est un ben, qui a changé de nom aussi, qui a pas renié sa religion, mais ne parle pas de son grand-père qui était juif, né aux États-Unis, va être aux prises avec un fils qui, lui, a été élevé dans la religion chrétienne, puis qui finalement décide de se convertir. Alors, encore là, toute la question identitaire qui ressort dans le livre. François Villy va être aux prises dans un scandale parce que on va faire un portrait de lui, on va le prendre en photo à côté d'une sculpture d'une noire et ça va créer scandale, ça va avoir l'air raciste et donc qui va venir à sa défense? Ben un musulman noir né de parents ivoiriens et qui en 2005 était une figure de proue des mouvements de protestation dans les banlieues parisiennes et qui tout à coup va se retrouver conseiller d'un président qu'on présume être un peu Sarkozy, qui va perdre son travail au sein du gouvernement parce que des conseillers vont avoir passé des propos racistes, puis tout ça.
Ça fait beaucoup,
tous
hein?
ces personnages-là. Mais c'est parce qu'ils sont tous interreliés, alors qu'on pourrait prendre l'histoire de chacune de ces personnes-là et en faire un livre, finalement, qui est intéressant puis qui va au-delà des clichés. Parce que j'ai trouvé que ces personnages-là étaient tous un peu caricaturaux.
Mal définis.
Mal définis, ou peut-être 520 pages, quatre personnages, et essayer de tendre les ficelles pour faire en sorte que ces personnages-là aient finalement un lien entre eux. Moi, je trouvais ça un peu ardu. Je vous dis pas que c'est un livre que j'ai pas aimé. C'est un livre dont
la critique est assez positive, à part celle de L'Express que vous avez lu
L'Express
ce matin.
Pas du tout aimé ce livre-là. On dit presque que c'est une BD et que les personnages n'ont aucune crédibilité. Cela dit, Karine Tuile, avec L'Insouciance, a été parmi les 16 finalistes au prix Goncourt qui avait été annoncé au mois de septembre. Puis finalement, il y a un mois, elle n'a pas été retenue.
Disparue de la liste.
Plus que Yasmine Arraza et ces gens-là. Et donc... petite déception, mais peut-être qu'un livre qu'on voudrait revoir dans 25 ans, quand on voudra peut-être voir, tu sais, faire une radiographie de la société française, puis de tous ses malaises, puis de ses problématiques.
Peut-être qu'il va prendre
cette
du sens à cette époque-là.
Il va peut-être prendre du sens, bien, comme vous le dites.
Ouais.
Mais,
c'est bien dit.
Mais il y a d'autres choses à lire, je pense.
Alors, Marc Ouatteux, ce roman de Karine Tuile, donc L'Insouciance, est paru chez Gallimard. Merci beaucoup de l'avoir lu avec une certaine souffrance, on aura compris, pour vous. Il reste que c'est le défi que vous réussissez, vous, haut la main, Denis Élise Béchard, celui de mettre en scène plusieurs personnages. Il y en a plus que quatre là, dans votre histoire.
Il y en a beaucoup.
Et oui, puis bon, vous faites 600 pages et puis ils sont tous cohérents, ils ont tous beaucoup de profondeur et l'intrigue qui les lie est très, très bien ficelée. C'est une réussite que ce roman, donc, Dans l'œil du soleil, ça va être lancé officiellement demain soir.
Demain, demain soir à Renaud-Bray, sur Saint-Denis.
Vous invitez tout le monde à aller vous voir.
Oui, absolument.
Vous êtes si charmant. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Denis. Élise Béchard aujourd'hui. Merci à Nicolas Titley, à Philippe Bernier-Arcan, à Marc Ouatteux, à Geneviève Guérard et à Dan Ridjanovic. Merci à l'excellente équipe. Bonne fin de journée. On vous embrasse. À demain.